ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 décembre de 18 à 21h, en différé jeudi 6, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par téléphone au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Ce soir, autour de cette table, pour une émission de 3 heures, Victoria. Salut Vicky.
Bonjour.
La turbine Seco. Ça y est, vous avez récupéré?
Bon, ça a l'air. Oui.
Touche au malade, jamais mourir.
Jamais mourir. Centenaire, elle viendra.
Oh là là là.
Bon, c'est pas fini de me supporter.
Non, mais on blague, et puis il arrive des choses tristes et pénibles comme la disparition de l'abbé Bartel, et finalement après on se dit c'est idiot parce qu'on aurait dû lui marquer plus de gentillesse, plus d'attention, mais c'est toujours après qu'on y pense, voilà, on taquine, et puis après, vous saviez pas?
Non.
Ah ouais, c'est passé hier matin.
Non, parce que j'aimais beaucoup.
Voilà, marqué, dis-moi, il a dû monter directement, j'espère. Je vois pas, un abbé, ça doit normalement...
Nous le souhaitons.
Ça va faire comme un bouchon, monter direct. J'espère. Enfin, moi, j'espère. Moi, n'étant pas abbé, j'espère que ça m'arrivera aussi. Mais pas tout de suite. Tant qu'à faire, on a encore un peu de boulot à faire. Alors, vous avez entendu la voix de François-Marie Elgou. Vous allez entendre la voix de Philippe Plancard-Assac. Vous allez entendre encore la voix de... Comment il s'appelle ce petit? Il est très très bien. Fersan, voilà. Tiens, j'ai même pas mis votre nom sur mon papier. Ah si, si. Henri de Fersan, journaliste.
Bonjour.
Bonjour Henri de Fersan, journaliste. Vous entendrez Claude Timmerman, journaliste aussi. Enfin, autre lieu découvert à marée basse.
Parce que, absolument.
Normalien, c'est probablement le plus cultivé de nous tous, à part...
Tout le monde est docteur Plancard dans son domaine.
Je sais pas, lui il est diplômé, le docteur Plancard. Est-ce que c'est diplômé?
Il y a autour de cette table des gens qui ont un palmarès culturel impressionnant.
Il va dans les têtes, le docteur Plancard. Il est neurochirurgien, il va à l'intérieur des têtes.
Oh, alors ça, c'est dangereux. Vous m'aviez pas dit ça, sinon je serais pas venu. Là, c'est dangereux.
Et puis juste à côté de lui.
Nous n'aurions pas venu.
Nous n'aurions pas venu, absolument.
Dans mon cas, il faudrait quand même vous équiper d'une forte loupe. Et puis, nous recevons également Stéphane Labouche qui viendra nous parler d'une école catholique. Vous savez que ça, cette émission, c'est pratiquement le resto du cœur. Enfin, c'est le fricathlon permanent. C'est-à-dire, il y a tout le temps quelqu'un qui vient demander de l'argent pour quelque chose. Là, ça sera pour une église, pour une école.
Oh, ça se fait beaucoup, proche du Téléthon.
Voilà. Monsieur Crémieux qui viendra nous parler du séché, qui nous expliquera ce que c'est que le séché. C'est un centre d'études sur la science à la lumière de la Bible, ou la Bible à la lumière de la science, les deux. Monsieur Adjo qui nous parlera de son livre sur le tir à l'arc, et puis Guy Le Hideux et Monsieur Chalufour, éditeur des éditions du Triomphe, qui nous présenteront quelques livres d'étrenne. Voilà. À propos de livres d'étrenne, je signale que j'attends, avec quand même quelques autres personnages plus considérables que moi, tous les amis de la lecture, de la bonne littérature et de la presse amie à Versailles.
Versailles, oui.
Vous pourrez voir le petit Fersan, vous pourrez lui acheter son livre.
Voilà, vous pourrez même souscrire au prochain.
Voilà. Alors, quand vous n'êtes pas au courant, il sait rien, ça vraiment...
Non, mais moi, je débarque, alors que se passe-t-il à Versailles? Je crois qu'il y a des tas d'auditeurs qui ne sont pas au courant. Voilà,
je veux Nyon de la province.
Mais, je ne veux pas être le seul à ne pas mourir idiot.
Pas le fait. Alors, c'est dimanche après-midi,
c'est ça? Dimanche après-midi, de 14h à 18h, donc à au Palais des Congrès de Versailles.
Mais c'est le plus simple à préciser, parce que...
C'est la vente...
On le trouve facilement.
Oui, c'est juste à côté de mon restaurant. La vente de Renaissance catholique.
Avec une centaine d'auteurs.
Une centaine d'auteurs.
Donc quelques-uns présents à cette table.
Oui. Bah oui, vous y serez, vous, Philippe.
J'y serai.
François-Marie Elgou y sera.
J'y serai aussi.
Fersan y sera. J'y serai. Il y a que Timmerman qui n'y a
pas. Pas encore. L'année prochaine, peut-être.
Il s'occupe pas de ses chevaux, lui. Voilà, donc vous avez le programme de la soirée. Si ça vous ennuie, vous avez juste à gauche de Radio Courtoisie, je sais pas quoi, et à droite, il y a une radio de rock qui est pas mal du tout, d'ailleurs, pour ceux qui aiment le rock. Ceux qui aiment pas ça, ils vont avoir une mauvaise surprise. Voilà, un petit tour d'actualité avec Philippe Loncard-Assac, François-Marie Elgou et les autres invités s'ils veulent s'exprimer. Je trouve l'actualité très intéressante. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe?
Passionnante, et qui nous donne de plus en plus raison, hélas.
Ouais. Là, comme disait Bainville,
tout a toujours très mal marché.
Tout a toujours très mal marché, alors là, c'est vraiment...
Je ne suis pas d'ailleurs tout à fait d'accord avec cette formule-là, parce qu'elle est tout de même désespérante. Les choses ont mal marché à plusieurs...
Mettez-vous devant le micro,
à plusieurs occasions, mais enfin, il est arrivé que quand les gens posaient correctement les problèmes, ça marchait mieux.
Vous voulez dire avant 89?
Notamment, et même après 89, il y a tout de même eu des périodes où ça pouvait aller un petit peu mieux.
Bon, ouais. J'étais pas là quand ça s'est passé, ça.
Oui.
Et moi encore moins.
Oui. Et moi non plus. Et alors, dans l'actualité, puisque vous me tendez la perche, il y a deux choses, entre autres, dont je voudrais parler. C'est d'une part l'histoire de la gendarmerie et la police. J'ai entendu tout à l'heure, étant descendu du train, j'ai attrapé là où je loge à toute vitesse la télé, les informations de 1h, pour savoir quelles étaient les dernières nouvelles. Et j'ai appris...
Que vous regardez la télé en même temps que vous prenez les informations.
Oui. Et j'ai appris que les gendarmes travaillaient 70 heures hebdomadaires.
Oh oui, au moins.
Alors, à l'époque des 35 heures, effectivement, il y a un petit problème. J'ai appris aussi, par une charmante représentante de la gendarmerie...
Vous savez comment on appelle la gendarmerie? C'est la blanche. C'est normal que ça fasse 2 pour 1.
J'ai appris aussi, par une charmante gendarme, qu'ils étaient obligés d'apporter leurs ordinateurs personnels.
Ils n'ont pas d'équipement.
Et qu'ils en avaient tellement marre qu'ils disaient, maintenant, ça suffit, on remporte notre matériel. Alors, bon, leurs revendications, on peut être tout à fait d'accord avec, mais je pense qu'ils devraient aussi se tourner un petit peu du côté des juges. Quand on voit comment certains sont libérés de façon anormale, on pourrait se demander si on ne devrait pas juger les juges.
Il y a un dessin de Kong dans le dernier numéro de Minute qui est superbe. C'est une juge de... Comment ça s'appelle? J'ai pas retrouvé le nom. Les nouveaux juges qui s'occupent de la loi... Enfin, qui appliquent la loi...
Des référés, non?
Non, c'est les juges qui décident si on doit mettre les gens en
détention. L'application des peines?
Non, c'est pas ça. Enfin, peu importe.
En tout cas, les incarcérations.
C'est ça qui décide si on met en garde à vue ou pas. Et là, il y a une juge qui dit, je l'ai libéré parce qu'autrement, j'aurais raté mon train. Et alors, c'est assez... Oui, mais c'est non seulement il y a de ça, mais c'est très drôle parce que il y a quelque temps je discutais avec une juge chargée de ce genre de problème et qui m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, il m'arrive de décider de remettre en liberté un prévenu parce que autrement je sais que je vais y passer la nuit et que je vais passer la nuit pour une procédure qui de toute façon ne servira à rien, et bon, donc je préfère le remettre en liberté plutôt que de m'enquiquiner à faire la procédure. Je lui ai dit, il faut espérer simplement qu'il ne vous rattrapera pas dans le parking pour vous violer. Donc effectivement le...
Et de toute façon elle raterait son train.
Oui, en plus, oui. Mais le... Je ne sais pas si c'est un problème de justice, de police, de gendarmerie. Moi, je crois que c'est tout simplement un problème d'État. Et même, ça va bien au-delà, c'est un problème métapolitique. Parce que si on veut bien Enfin, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a une grève, une manifestation de la gendarmerie. La première fois dans l'histoire de France. Ouais. Et les gendarmes, c'est quand même, la blanche, c'est quand même une arme extraordinaire dans l'histoire de France. C'est les descendants ou les héritiers des sergents massiers de Bouvines.
Les sergents massiers de Bouvines.
Autrement dit, c'est le corps fondateur de la nation française. Il y a une coïncidence presque sacrée, métaphysique en tout cas, presque transcendantale, entre la gendarmerie et la France. Et d'ailleurs, la caricature du gendarme ressemble beaucoup à la caricature du franchouillard. Le franchouillard tel qu'il est caricaturé, c'est le gendarme. Enfin, la quintessence du français, c'est le gendarme. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de voir cette arme s'effondrer sur elle-même au moment où tous les gens un peu sensés voient le pays s'effondrer sur lui-même. Et s'effondrer sur elle-même pour des raisons qui sont exactement les raisons pour lesquelles la France s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de valeur, et il n'y a plus de sentiment de la grandeur de ce qu'on fait et de ce qu'on est. C'est-à-dire que les gendarmes, à partir du moment où les gendarmes se mettent en grève ou se mettent en interruption de travail, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le sentiment, ils ont perdu le sens de l'importance de leur rôle social et de leur rôle...
Je crois pas qu'ils n'ont pas perdu le sens. Ils ont malheureusement, d'expérience et très récemment, pris la mesure de l'incapacité où ils se trouvaient d'assumer leurs fonctions, leur rôle, et ce à quoi ils croyaient, c'est dramatique.
Non, mais d'accord, Claude, mais le problème, c'est que si les autres armes font la même chose, ça veut dire qu'à Saumur, par exemple, les cadets de Saumur disent, nous, on est incapables de tirer le pont, eh ben, on s'en va. Parce que le gouvernement nous a pas donné le moyen de nous défendre. Hein, on n'a pas les armes, et puis d'abord, ça fait 48 heures qu'on se bat sans arrêt. Hein, en deux jours, on a fait notre temps de travail de presque deux semaines, donc ça va, on arrête et on s'en va. C'est ça le truc. C'est Cameron, les légionnaires qui disent, non, il est 17 heures, les gars, c'est l'heure de la soupe, on pose les armes. Enfin, on est dans cette situation, quoi. On est devenu un pays où, là, pour le coup, les droits de l'homme se sont imposés. C'est-à-dire, les droits de l'homme, c'est travailler 8h midi, 2h, 6h, et en dehors de ce temps-là, bah, écoutez, on a notre temps de récupération, il faut qu'on prépare nos vacances, et puis voilà. Il faut quand même admettre qu'il y a des métiers en France, il y a des activités, il y a des rôles, il y a des fonctions en France qui ne peuvent pas obéir aux règles qui s'imposent à d'autres. On peut pas être gendarme comme on est postier. Non. C'est impossible.
Bien sûr. Bon. Même si c'est
la poste est certainement aussi importante fait partie de l'ordre public, fait partie de l'organisation de la société. Mais n'empêche qu'il y a une dimension sacrée, oui, sacrée, je vois pas d'autre mot, dans la fonction de l'ordre public qui dépasse largement la fonction fonctionnelle, si vous permettez, de la poste.
C'est les hommes politiques qui doivent faire les 35 heures.
Cette situation est tout de même très intéressante pour nous parce qu'elle est la démonstration de ce que l'on annonce depuis des années. C'est la démonstration de l'effondrement d'un système qui est basé sur quelque chose d'antinaturel. C'est la démonstration de la carence et de la faillite de la démocratie que l'on dénonce. Nous sommes dans une société inorganique. Tant qu'on ne reviendra pas à une société organique, adaptée au monde moderne, eh bien on ira de déconvenu en déconvenu avec les différents corps de la nation qui se dissolvent les uns après les autres. C'est ça le fond du problème. Alors c'est intéressant. Bon, c'est pénible pour nous tous français, parce que nous en souffrons, mais d'un autre côté, ça apporte de l'eau à notre moulin de façon extraordinaire. C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai voulu démontrer sur un plan doctrinal dans mon livre.
Il y a encore un autre aspect à propos de la gendarmerie qui me paraît très intéressant, c'est le fait que... Alors je sais que je déplais en disant ça, mais tant pis, après tout, c'est la vérité, on peut le dire. Les gendarmes ont toujours exécuté, sans hésitation ni murmure, conformément au règlement, les ordres qui leur sont donnés par l'autorité. Autrement dit, on leur a dit, il faut arrêter les fellows, ils arrêtent les fellows. Il faut arrêter les OS, on arrête les OS. Il faut arrêter les résistants, on arrête les résistants. Il faut arrêter les collabos, on arrête les collabos. Faut arrêter les déserteurs, on arrête les déserteurs. Faut arrêter l'extrême gauche, on arrête l'extrême gauche. Arrêter l'extrême droite, on arrête l'extrême droite. Ils ont toujours fait exactement ce qu'on leur disait de faire, sans état d'âme, sans hésitation, ni murmure, ils ont obéi au pouvoir politique. Même quand les décisions du pouvoir politique, quand les ordres du pouvoir politique étaient contraires à la morale, contraires à l'honneur et iniques. Et là, pour la première fois, ils se révoltent. Et pourquoi se révoltent-ils? Pas parce qu'on leur donne un ordre inique, pas parce qu'on leur donne une mission déshonorante, mais parce qu'on leur oblige à faire 70 heures quand les autres en font 35. Alors, la dimension, je dirais, spirituelle, la dimension héroïque de cette révolte, vous m'excuserez de ne pas couper dans ce système.
Hein, ça rejoint les analyses qu'on a faites où on disait les Français ils bougent pas, etc., etc. Mais le Français bougera, et là l'exemple de la gendarmerie est caricatural, le Français commencera à bouger le jour où on touchera à sa gamelle. Voilà.
Le français, ça me paraît une généralisation un peu abusive. Le propre, ce qu'on voit là, c'est qu'il s'est créé une espèce de fonction publique qui est complètement dévoyée, c'est-à-dire qui n'a plus le sens de son sa mission de service public.
Oui, mais c'est un boulot. Il y a un problème de capacité. Il y a des années que la gendarmerie est en butte aux difficultés de pouvoir assumer son travail. Aujourd'hui, il y a de quoi en avoir marre. De servir de cible au tir au pigeon, parce que chacun sait que la peine de mort n'est pas dissuasive, mais finalement c'est bizarre depuis qu'elle n'existe plus et qu'il n'y a plus de prison à perpétuité. On a un peu tendance à confondre la chasse au lapin et la chasse aux gendarmes par les temps qui courent. Il y a des coïncidences comme ça. On découvre aussi que ce sont des gens qui ne sont pas équipés. On explique maintenant qu'il faut récupérer enfin des gilets pare-balles. Ah oui, mais après avoir creusé, j'en connais quelques-uns qui m'ont dit les gilets pare-balles, on les aura jamais. C'est un truc électoral. Après les élections, tout le monde ne sera pas équipé.
Ne protégeant pas contre les 9 mm.
Et ne protégeant pas contre les 9 mm. Et ce qu'il y a de pire...
Ils comptent les balles dans la tête.
Ce que j'ai expliqué aussi, c'est que le gilet pare-balles en tant que tel est quelque chose qui va être incitatif. Car tout le monde sait qu'une balle, c'est quelque chose qui déséquilibre à l'impact. Donc quand il y aura un gilet pare-balles, et ben la crapule d'en face va tirer dedans pour coucher le gendarme sans le blesser, comme ça il sera pas emmerdé, ça lui donnera les 30 secondes qu'il faut pour qu'il se taille. Donc c'est pas non plus une bonne formule.
Alors un auditeur dit vous confondez les fonctionnaires avec les gendarmes et les policiers qui se font assassiner pour 8000 francs par mois.
Alors,
c'est un problème c'est une question qui revient tout le temps. Alors, est-ce qu'un auditeur peut avoir la gentillesse de m'écrire, enfin de téléphoner, pour dire à partir de quel salaire mensuel c'est acceptable de se faire buter? Voilà, moi c'est ça qui m'intéresserait. Parce qu'on me dit toujours, on se fait tuer pour 8000 francs par mois, ou d'autres disent 6000, le facteur s'est fait mort par un chien pour 4000 francs par mois, ou 7000 francs, ou... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens, enfin, il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un gendarme, c'est pas un fonctionnaire, c'est pas un militaire. Un gendarme, c'est pas un policier. Un gendarme, c'est un militaire. Or, comme disait je ne sais plus qui, le métier de militaire présente parfois quelques dangers, surtout en temps de guerre. Voilà. Il faut le savoir. Quand le gars rentre dans la gendarmerie, s'il veut pas avoir d'emmerdement, le gars, il rentre à la sécurité sociale. Tout ce qu'il risque de prendre, c'est, à l'extrême rigueur, une claque par un usager mécontent, et encore à condition que l'usager soit assez fort pour passer par-dessus la vitre blindée qui maintenant sépare le fonctionnaire de l'usager. Mais il y a la fonction publique, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de métiers qu'on peut faire dans la fonction publique. Quand on choisit la gendarmerie ou l'armée, il faut envisager sérieusement et raisonnablement le risque de balles. Ça peut exister.
Là, je vais me faire l'avocat du diable.
Que ce soit 8 000 ou 25 000 ou 50 000 ou 70 000 francs par mois ou 100 000 francs par mois, je vois pas ce que ça change au fait qu'on ramasse une bastos. Voilà, c'est tout.
Non, le montant ne change pas, mais ce qui se passe, c'est qu'un militaire, en principe, est censé se trouver en situation où il peut se défendre sans difficulté. Là, on est dans un contexte où le rôle, au départ, du gendarme est surtout d'éviter de tirer. Quand en plus il le fait, dans 95% des cas, on l'accuse de bavure. Et par-dessus le marché, il est là pour être à l'origine d'un système qui se doit à ce moment-là d'être répressif et qui ne l'est pas quand les gars sont relâchés le lendemain matin. Au bout d'un moment, il y en a marre et je commence à comprendre que ça puisse sérieusement les démobiliser sur le plan du sacerdoce. Parce que c'est un sacerdoce sous une certaine forme. Mais il y a un moment, on finit par être dégoûté, je me mets à leur place.
Ah non, mais je dis pas le contraire, je comprends parfaitement que je sois dégoûté. Mais
le gars, pour faire son boulot, qui s'achète un ordinateur parce qu'il n'en a pas en dotation, moi, il y a 2 ans, j'ai acheté une voiture d'occasion, je ne le savais pas, j'ai acheté par petite annonce, c'était un gendarme. J'ai donc déboulé au mois d'août dans une gendarmerie de la région parisienne que je ne citerai pas, et où les gars étaient tous en salopette, en train de repeindre la gendarmerie, parce qu'ils en avaient ras-le-bol de vivre dans la cochonnerie. Ils se sont dit, on s'est pris du temps sur nos vacances, on se repeint de la gendarmerie avec de la peinture qu'on a achetée à nos frais.
D'où la chanson, quand un gendarme peint dans la gendarmerie. Bon. Non. Oui, les gendarmes peignent dans la gendarmerie. Un mot entre... un auditeur, je suis scandalisé de la façon dont Beketch a expédié le décès de l'abbé Wartel. Je voudrais apporter un correctif. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Oui. Monsieur, c'est pas moi qui ai tué l'abbé Wartel. J'ai annoncé son décès. Il lui a été rendu hommage dans l'émission de Ferré. Il lui a été de Jean Ferré, par Jean Ferré dans l'émission de Reichmann. Je lui ai rendu un hommage, mais... qu'est-ce que je peux dire de plus? Je le connaissais assez peu, et voilà.
On a reçu beaucoup de messages de condoléances et de sympathie après son décès, l'annonce que vous en avez faite, et on vous demande si vous savez quand auront lieu ces obsèques.
Mais je ne le sais pas. On ne le sait toujours pas, d'ailleurs. Franck me fait signe qu'on n'a pas d'informations là-dessus, mais dès que les informations seront données, vous serez avertis, bien entendu. Alors, revenons à cette histoire de gendarme, parce qu'on a tous parlé, finalement, celui qui a le moins parlé, c'est Philippe Pancardassac.
Bah, non, j'ai lancé déjà le débat. Ben là-dessus, c'est déjà ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le problème de la gendarmerie, c'est qu'ils ont une mission à accomplir et que les pouvoirs publics font tout pour qu'ils ne puissent pas l'accomplir.
Absolument.
Et par manque de moyens et par désordre qui les empêche d'agir. Parce qu'il faut bien voir ça aussi, la hiérarchie ne veut pas que l'on domine la criminalité. Alors, je crois que leur malaise découle de ça, d'une part, mauvais salaire, bien entendu, mais quand en plus du mauvais salaire, on se fait tirer comme un lapin sans pouvoir se défendre parce qu'on a des ordres de ne pas tirer sous peine de bavure et de poursuite, il ne faut pas s'étonner que la tension monte dans les casernes. Il faudrait bien aussi de se préoccuper un petit peu de leur syndicat quelque peu franc-maçon et de leur hiérarchie du même type, qui les bloque et qui les empêche d'agir aussi. Alors, je crois que là-dessus, on a dit le principal. Il y a malheureusement une autre actualité. Une autre actualité qu'en tant que... comme on ne peut pas ignorer. C'est ce qui se passe en Palestine. Alors, il n'est pas question de prendre parti pour les uns ou pour les autres, mais une question de justice et de vérité. Il n'est pas normal que on traque, on bombarde, on détruise les maisons, les cimetières, les lieux de culte d'une population parce qu'une autre population veut prendre la place et les mettre à la porte définitivement. C'est absolument scandaleux et je crois que ceux qui prennent position pour les Américains actuellement sous prétexte de nous défendre contre l'immigration font un calcul absolument faux parce qu'ils oublient une chose à propos de l'immigration, c'est que ce sont nos chers alliés américains qui nous ont obligés à décoloniser et que la décolonisation est la mère de l'immigration. Alors c'est la politique de Gribouille, encore une fois, et je voudrais mettre en garde un certain nombre de très braves gens qui ne comprennent pas comment ils sont manipulés et qu'ils prennent garde à une chose, c'est que dans la mesure où on appuie les Américains et par voie de conséquence on appuie le sionisme, on entraîne par voie de conséquence et de réaction l'islamisme. Alors, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de veiller à nos intérêts nationaux et à la sécurité des Français.
Tout à fait. Mais je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une question de justice qui se pose en Palestine. Mais ça, je dirais que c'est le problème des gens qui vivent en Palestine. On n'est pas absolument obligé de s'occuper de tous les problèmes dans le monde entier. Parce que, oui. Autrement, il va falloir de s'occuper de ce qui se passe au Nigeria.
Bien
en ce
entendu.
Moment, où ils sont en train de s'entretuer. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils font pour continuer à s'entretuer, parce que depuis le temps qu'ils le font, tout le monde va être mort.
C'est le pays d'Afrique le plus peuplé. On parle de 120 millions d'habitants au Nigeria, c'est absolument faux. C'est beaucoup plus près de 200 que de 120. C'est colossal.
La matière première.
On est tout à fait d'accord.
Mais les
Français sont engagés dans une guerre contre le terrorisme international.
Non, ils ne sont pas engagés. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous raconte, mais vous savez bien que ce n'est pas la vérité.
Ils déminent.
Ils vont faire les guignols parce que la France est dirigée par un pantin et qu'il a trouvé rigolo d'envoyer 45 bidas qui ont commencé par passer 15 jours derrière la frontière ouzbek parce que les ouzbeks ne voulaient pas leur laisser franchir la frontière. Alors moi, des parachutistes qu'on ne laisse pas passer à la frontière, j'ai du mal à comprendre parce que je croyais que les parachutistes arrivaient par le haut. Ben non, il faut... Et les ouzbeks ne voulaient pas les laisser passer parce qu'il fallait qu'ils payent une taxe d'aéroport à peu près 20 000 fois supérieure à la taxe réclamée aux indigènes. Enfin, tout ça, on est grotesque sans arrêt. Encore une fois, le dessin de Kong dans Minute qui montre l'escadre de l'ex-Richelieu. Se rendant là-bas. Alors, il y a donc l'ex-Richelieu, il y a les
deux frégates.
Les deux frégates d'accompagnement, enfin, qui volent, qui naviguent de conserve. Et puis,
le tanker et le Norker.
Il y a le remorqueur quand même.
En cas de problème.
En tout cas, ça fait des airs à Toulon, ça je peux vous le dire.
Ben, c'est surtout, ça enlève du travail aux mécanos et aux gens chargés des menus.
Bon, mais ceci dit, il est évident
que c'est ce qui se passe à Paris. C'est ce qui se passe à Paris. Cette semaine à Paris, il y a eu des émeutes sur les Champs-Élysées avec des ratonnades dans le métro, où des jeunes israélites qui venaient de manifester sur les Champs-Élysées sont allés ratonner dans le métro, casser la gueule de jeunes maghrébins qui probablement n'en avaient que faire, parce que je vois pas très très bien en quoi les maghrébins français, qui sont pas plus arabes ou à peine plus arabes que moi, peuvent être concernés par le problème des Palestiniens, sinon par une espèce d'attitude un peu comme ça.
Ils ont peut-être fait ça parce que ils ont peut-être fait ça à la station métro Charonne et ils ont.
Ah, c'est possible qu'ils aient confondu. Oui, c'est... Non, c'était aux Champs-Élysées d'ailleurs, c'était à Franklin Roosevelt, je crois. Oui. Mais là, si ça,
ça
doit,
bah
oui, si ça doit se passer comme ça en France régulièrement, il va peut-être falloir commencer à s'intéresser à cette question.
On aurait une Palestine chez nous.
Oui, enfin, en tout cas, c'est, je vois pas pourquoi on serait obligé de se mêler de ça. Mais là, curieusement, pour une fois, je crois pas qu'on va nous demander de rompre avec l'esprit de Munich. Oui, c'est curieux.
Très
ça
juste,
m'étonnerait
oui, c'est très curieux,
que les mêmes qui nous reprochent l'esprit de Munich depuis des années se manifestent encore un coup pour recommencer. Là, je trouve que je suis à peu près certain qu'ils vont pas nous demander de s'occuper de ça. Voilà.
D'autres de l'art et de l'usage du bellicisme.
Oui, oui. Moi, je suis pas contre la guerre, mais chez les autres. Parce que la guerre, c'est une nécessité existentielle, on le sait.
Tout à fait.
Mais en France, je trouve qu'on a beaucoup donné depuis deux siècles. Bon, on peut peut-être aller laisser les autres faire ça chez eux. Laisser un peu mesurer les autres, comme disait, comme disait César dans Marius.
Mais
pas le Romain. Hein,
Serge, je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près un an, 19 octobre, dans votre revue, Le Libre Journal.
Oh, n'hésitez pas.
J'avais, bah justement, je le fais. J'avais écrit un article qui s'appelait, dont le titre était Eretz Israël, ce qui veut dire, en français, le Grand Israël. Et je citais deux textes de juifs, une juive américaine, qui constatait d'ailleurs, elle l'a subi à ses dépens, je cite, le sionisme est devenu pour beaucoup de juifs la religion. Toute opposition au sionisme ou critique à l'égard d'Israël est devenue hérésie et cause d'excommunication. Elle l'a été par ses coreligionnaires.
Là, je vous coupe un instant à propos de ce que vous dites. Sur le système, le logiciel Word, logiciel d'informatique Word, qui sert à taper, qui est un traitement de texte, donc qui sert à taper sur les ordinateurs des textes. Quand on tape, vous avez un système de correction, qui vous propose des corrections automatiques quand vous faites une faute d'orthographe. Si vous tapez, c'est extraordinaire, si vous tapez antisionisme, le système de correction le refuse et vous propose en remplacement antisémitisme. C'est
assez
extraordinaire
curieux.
Parce que ça n'a rien à voir. On peut très bien être antisioniste sans être antisémite. Et je dirais même qu'une certaine logique de l'antisémitisme voudrait qu'on soit pro-sioniste. Parce qu'un antisémitiste qui est pas, un antisémite qui n'est pas un antisémite de sang, qui veut pas faire du mal à des gens sous prétexte qu'ils sont juifs, mais tout simplement qui est antisémite parce que ça lui plaît pas de les rencontrer, eh bien, il peut se dire qu'après tout, s'ils ont leur terre, et s'ils sont chez eux, au moins il les aura pas sous les yeux. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est deux choses bien différentes. Oui. Sauf pour l'ordinateur de, sauf pour les logiciels de Word, où on considère que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une opinion historique, je dirais politique et historique, qui est l'antisionisme, et il y a beaucoup de juifs antisionistes d'ailleurs, à commencer par les juifs fondamentalistes et traditionalistes, eh bien, si on a cette opinion-là, on devient immédiatement, dans le cadre de la loi française, un délinquant, c'est-à-dire un antisémite.
Et d'autant plus, en plus, on assiste à une véritable... c'est même plus de l'inversion sémantique, c'est carrément de la propagande et de l'inversion de la réalité. C'est, par exemple, j'ai entendu déblatérer, je ne sais plus qui, sur une radio, en disant que Sharon luttait contre l'antisémitisme en lançant ses hélicoptères sur Gaza. Alors déjà, je dis, c'est doublement faux, parce que, premièrement, à ce que je sache, les Palestiniens sont des Arabes, donc des sémites. Et deuxièmement, à ce que je sache aussi, Ariel Sharon est un Ashkenaz, donc un Khazar, et donc il n'est pas sémite.
Ouais, enfin, alors là, c'est des considérations dans lesquelles moi je m'abstiendrai d'entrer. Ça n'est pas ma tasse de thé du tout, genre de
Enfin, n'empêche qu'on ne peut pas parler d'antisémitisme dans la rivalité judéo-arabe.
Alors,
parce que ce n'est qu'une.
Il y a aussi
les fils d'Isaac contre les fils d'Ismaël.
Une dernière citation que je voudrais donner à ce sujet-là, c'est une citation d'Ariel Sharon. Ariel Sharon, pour la petite histoire, il faut tout de même savoir et se rappeler, c'est le responsable des massacres de Chabra et Chatila. C'est lui qui a mis le feu aux poudres avec sa petite promenade digestive sur l'esplanade des mosquées,
oui,
qui a déclenché la seconde intifada. Et voilà ce qu'il disait lors de la convention du Likoud en mai 1993. Qu'il fallait, je cite, qu'Israël fonde sa politique officielle sur la notion des frontières bibliques. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, les guerres dans la région, ça ne fait que commencer. C'est comme si nous demandions la restitution de l'Empire de Charlemagne.
Je ne suis pas contre. Puis je voudrais faire, à propos, puisque vous parlez de ça, moi je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Sharon, mais je voudrais bien avoir un chef d'État en France comme Sharon. Je veux dire que, si vous voulez, je vous ferai une proposition au peuple israélien. Je leur dirai, écoutez, on vous donne Chirac, hein, et vous nous donnez Sharon. Moi, je suis quelqu'un qui me conviendrait parfaitement. Parce que Sharon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je suis là pour défendre mon peuple et mon pays. Alors, les raisons morales, les raisons historiques, tout ça, on peut en débattre jusqu'à la fin de la journée et même plus tard. Mais le fait est qu'il y a, voilà, un type qui a été porté au pouvoir, dit, je suis le chef d'un État, j'ai tout fait pour devenir le chef de l'État, je suis le chef de cet État, et ma mission, c'est pas de faire plaisir au monde entier. C'est pas de passer pour un bon garçon aux yeux de l'opinion publique internationale. Ma mission, c'est de défendre mon peuple et le territoire de mon peuple. Moi, je décide, avec certains membres de mon peuple, que le territoire, c'est Eretz Israël, c'est-à-dire ça s'arrête à peu près, disons, sur les bords de l'Atlantique, et ça va probablement jusqu'au bord de la mer de Chine, et dans l'autre sens, c'est à peu près de la Baltique au Cap...
Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance.
Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance, en gros... Donc voilà, mon boulot, c'est de garder ça. Ça vous plaît pas? C'est très exactement le même prix. Vous vous mettez devant nous, on va vous tuer. C'est tout. Si vous nous empêchez de vivre, on vous tuera. Eh ben, écoutez, si on avait un chef d'État comme ça, on serait respecté au moins en France.
Oui.
Et si les Français pouvaient être respectés dans le monde, ne serait-ce que le dixième de ce que les Juifs sont respectés dans le monde, je serais le plus heureux de la Terre.
Oui, le problème n'est pas le même, je crois. Les influences ne sont pas les mêmes.
Le fait est là. Nous, on réclame toujours un pouvoir fort. Eux, ils en ont un.
Serge, votre caricature est très bonne. Mais justement, comme vous savez, je défends le nationalisme, puisque j'ai écrit un livre là-dessus. Or, le propre du nationalisme français... tel qu'historiquement il est né, c'est la défense d'un héritage. Donc là, évidemment, on est dans la même longueur d'onde. Mais le nationalisme n'est pas impérialiste, comme le sont les Juifs actuellement, en Israël. Or, cette vision biblique d'Israël, c'est la porte ouverte à la guerre pour des décennies au Moyen-Orient. Et là, nous allons tous trinquer dans l'affaire. C'est pour ça qu'il faudrait arrêter la chose.
Alors, si on veut, on va rester sur ces questions. Si on veut en savoir plus de la pensée de Philippe Lancard-Lassac, puis de celle de Fersan aussi, après tout, on peut lire leurs
nos livres,
leurs livres.
Ah bah justement, puisqu'on
parle
de livres,
leurs journaux. Enfin,
puisque l'on parle de livres, justement, je vais faire la signature de mon livre, Le Nationalisme Français. Alors, à vos stylos et crayons. Le vendredi 7 décembre, à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, de 14 à 19 heures. Et alors, comme Serge de Beketch l'a dit tout à l'heure, le dimanche 9 décembre, à la 10e vente dédicace de Renaissance catholique, au Palais des Congrès de Versailles, de 14 à 18 heures. Donc le 7 et le 9... Ceux qui voudront que je leur signe mon livre pourront venir soit à la Librairie Nationale, soit à Versailles au Palais des Congrès.
Autrement dit, pour pas acheter votre livre, c'est vraiment de la mauvaise
expérience. Voilà. Eh ben, écoutez, comme vous l'avez pas fait, mon cher ami, je suis obligé de le faire. Jamais mieux servi que par cela. Et alors, dernière chose, et après ça, je vous quitterai. Je rappelle que depuis avril, j'ai estimé nécessaire d'avoir un organe plus constant de contact avec mes amis. C'est une lettre mensuelle des cercles nationalistes français que j'anime, qui s'appelle La Politique, et on peut nous écrire à CNF, boîte postale 5508-238, 83097, Toulon-Cedex. Voilà.
Merci Philippe Lancard-Lassac, à bientôt pour d'autres nouvelles
Ce n'est qu'un au revoir.
Du point de vue nationaliste. Et vous, mon petit Fersan, alors votre vous
l'avez alors, faire moi, ça, bon, je, voilà. Donc moi, je dédicace le samedi matin à Saint-Nicolas du Chardonnay, donc dimanche matin à Saint-Nicolas du Chardonnay et dimanche après-midi à Versailles. Donc mon petit mensuel, les lettres Fersan, on le trouve boîte postale 18 63 670 Le Cendre. Et donc l'abonnement est de 120 francs par an.
C'est un journal de pauvres, ça. 120 francs par an. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce mari?
C'est pas, hein, très,
c'est pas cher, franchement.
Ça fait combien en euros, ça?
Ça vaut cher, mais ça coûte pas cher. Ah. Ah non, c'est en euros, je sais pas.
Ah oui, je peux rajouter le prix du mien, alors. Donc l'abonnement à notre lettre d'information qui s'appelle La Politique, c'est 200 francs par an, c'est un petit peu plus cher. Ah, il y a davantage de pages. Et le spécimen sur demande est à 20 francs parce qu'on a trop de demandes et on ne peut plus continuer à les envoyer gratuitement comme précédemment. Merci.
Merci, messieurs.
À propos de la... La brochure. Êtes-vous au courant de cette brochure éditée par le syndicat de la magistrature, dont la couverture représente un policier avec une tête de cochon?
Oui, j'ai fait un article dans le Libre Journal là-dessus.
Ah, alors là, voilà. C'est plus la peine que je continue. Lisez le Libre Journal, 4 places France.
Non, c'est un policier avec une tête de porc qui...
Mèche et moustache à la Hitler, destiné à dire leur droit aux jeunes. Voilà. Que pensez-vous aussi des 300 milliards de francs chaque année destinés aux zones, gens en difficulté de l'immigration, etc.
Je suis contre.
Et le nom du juge que vous cherchiez tout à l'heure, c'est le juge de la liberté et de la détention.
Oui, c'est ça. La liberté, c'est vraiment le mot.
Le juge de la liberté et de la détention.
Est-il vrai que les hauts dignitaires de la gendarmerie soient francs-maçons?
Je me suis désolé de me répéter, mais c'est la triste réalité, la pénible et pesante réalité. On peut considérer que, sauf exception, à partir du grade de colonel, un gendarme est franc-maçon.
Les généraux de gendarmerie qui sont francs-maçons devraient, puisque généralement ils sont de gauche, ça va de pair, ils devraient méditer le 5e couplet de l'International.
Ah.
Je cite, les balles des soldats sont destinées à leurs généraux.
Qu'ils savent, ces cannibales, voilà.
Ils ne feront pas nous des héros.
Voilà. François-Marie Algou, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
Bonjour, cher Serge.
Bonjour.
Je pense bien sûr beaucoup de bien de votre émission.
Ah bah ça,
au contraire, serait extraordinaire, sinon vous me foutez dehors.
Non, il y a des gens qui viennent dans cette émission qui ne l'aiment pas du tout, mais ils me le disent après.
Ils le disent après. Non. Alors, je suis une fois de plus content d'être là. C'est gentil de m'avoir invité.
Surtout, non, mais je vous ai invité parce qu'il y a une grande nouvelle, quand même.
Ah, ben, il y a une grande nouvelle.
Des grandes nouvelles.
Nous avons décidé, nous en avons parlé il y a quelque temps, enfin, il y a même plusieurs mois de ça, quand on a eu l'idée de faire de l'année 2002 l'année Charles Maurras. Pourquoi? Ben, comme beaucoup le savent, tout au moins certains le savent, Charles Maurras est décédé il y a 50 ans. Le 16 novembre, donc 1952. Et c'est un événement extrêmement important parce que Charles Maurras est soit oublié, soit méconnu, soit truqué. D'ailleurs, Pierre Gaxot avait écrit ceci dans la préface, dans l'avant-propos plutôt de la préface à Mes idées politiques. Il ne faut pas oublier que Gaxot non seulement était un grand historien, mais qu'il a été secrétaire de Charles Maurras. Il écrit ceci, « Le personnage de Charles Maurras, tel qu'on l'a fabriqué, est un étonnement continuel pour ceux qui ont eu le privilège de l'approcher ou simplement qui ont pris la peine de le lire. On lui prête des idées qu'il n'a jamais eues, on le fait partisan de politiques et de régimes qu'il a combattu toute sa vie, et quand on imprime une prétendue citation de ses œuvres, il y a gros parier que c'est un contresens. » Donc nous avons pensé à un certain nombre d'amis, et dont vous, Serge, que ce serait important de faire de cette année une année Maurras. Alors depuis, j'ai été voir pas mal de relations et d'amis, dont évidemment le neveu et fils adoptif de Charles Maurras, Jacques Maurras, et son épouse qui préside l'association des amis du chemin de paradis, à qui je leur ai soumis un certain nombre d'idées, et ils ont été intéressés. Ils vont eux-mêmes prendre un certain nombre d'initiatives au point de vue film, au point de vue théâtre, au point de vue manifestation à Martigues, enfin, etc. Et par ailleurs, avec notre ami Jean Augui, nous avons décidé d'organiser une exposition-vente de livres de Charles Maurras et d'écrivain maurassien en novembre de 2002. Comme vous le savez, Serge, pendant 20 ans de mon métier, j'étais directeur d'une revue d'exportation en 23 langues. Puis après, pendant 20 ans, j'ai créé mes propres sociétés pour organiser des colloques et des expositions internationales, professionnelles. Donc j'ai une petite expérience de ce qu'est la promotion et de ce que c'est qu'une manifestation de ce genre. Et puisque maintenant, j'arrive à la fin de mes jours, comme dit l'autre, quand le Seigneur voudra, eh bien, je voudrais avant rendre hommage à mon maître.
C'est déjà ce que disait Madame Calment, alors qu'elle n'avait même pas fait la moitié du chemin, alors.
Parce que je veux rendre hommage à mon maître, Charles Maurras, à qui je dois tant. Donc, nous allons organiser, Jean Augui et votre serviteur, cette manifestation en novembre 2002. Et pour préparer tout cela, nous avons pensé, et on en a parlé tous les deux, organiser, mettre sur pied un certain nombre d'émissions de radio, peut-être d'autres choses, on verra, de telle façon que on connaisse mieux Maurras. Parce que notre objectif, c'est de faire davantage connaître la pensée de Charles Maurras, ses écrits et ceux des écrivains et journalistes maurrassiens. C'est ça, donc, la nécessité. Et par exemple, un tout petit fait, mais on aura à en reparler, mais la fête de Jeanne d'Arc a été imposée par l'Action française et les Camelots du Roi. Elle a été proposée au Parlement par Maurice Barrès. Bon, combien de personnes savent pourquoi et quand et comment s'est imposée la fête nationale de Jeanne d'Arc, de cette sainte, de cette fille, jeune fille admirable. Les gens ne le savent pas. Donc, il y a des montagnes de choses à faire. Alors, déjà, il y a eu quelqu'un qui a pris une initiative que je tiens à saluer. C'est ce jeune historien remarquable qui est Yves Chiron. Il a lui-même déjà pris l'initiative, puisque avec son bulletin Charles Maurras qui paraît chaque trimestre, il a commencé une enquête sur Charles Maurras. Où dans la première de ses parties de cette enquête, il y a déjà 16 personnes qui ont répondu à 5 questions importantes. Donc nous devons saluer cette initiative. Son bulletin est extrêmement intéressant. Il va atteindre d'ailleurs entre 52 et 55 pages l'année prochaine et sera publié chaque trimestre. Et ceux qui sont intéressés peuvent écrire à Yves Chiron. Je donne son adresse. Il est 16 rue du Berry. Yves Chiron, C-H-I-R-O-N, 16 rue du Berry, 36-250 à Nierne, N-I-H-E-R-N-E, Nierne. Si je me mets à bafouiller, c'est complet. Alors, par ailleurs, je signale que il a pris une initiative remarquable. Il a écrit, il a sorti un document que personne ne connaissait, qui n'a jamais été publié, donc de Charles Maurras, s'appelle « Trois devoirs ». Et c'est une réponse à un document du comte de Paris où celui-ci, bien que je sois royaliste, j'ose dire qu'il disait pas mal d'âneries. Et ce document de Charles Maurras, ce petit bouquin de Charles Maurras, a été édité par Yves Chiron. C'est donc quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puisque ça a été réédité par Charles Maurras en prison quand il rédigea ses pages qui étaient restées inédites jusqu'à présent. Et c'est pas cher puisque c'est 70 francs. Et Charles Maurras, il fait une analyse impressionnante des idées de gauche du comte de Paris et du danger de son fédéralisme européen et mondial. Et finalement, ces démonstrations contenues dans cette longue étude n'ont rien perdu de leur actualité. Par bien des aspects, elles sont même prophétiques.
Oui, c'était tout à fait prophétique quand on a connu le bonhomme par la suite et les positions qu'il a prises.
Exactement. Donc Chiron a fait un travail remarquable et je dirais que c'est lui qui a ouvert, dans le fond, l'année Maurras et je tiens personnellement à le saluer. Quant à nous, déjà avec vous, Serge, on en a parlé lorsque vous m'avez interrogé sur mon bouquin « Donc France, notre seule patrie ». Puisque mon livre est un florilège de pages magnifiques de Maurras et de 16 contre-révolutionnaires, d'ailleurs que 16 avec Maurras, et vous avez dit ce que vous en pensiez, et ça a été gentil. Et moi aussi, je vais avoir comme nos amis le plaisir de me retrouver à Versailles, de 14h à 18h au congrès, au Palais des Congrès, dans cette manifestation organisée par Renaissance catholique qui fait un très beau travail. Alors dans les émissions, il y en a déjà une qui a commencé avec mon ami le commandant Pierre Guillaume, puisque comme vous savez, il y a 18 ans, on s'est connus quand on était tous les deux en Arabie Saoudite, c'est le coin de Riyad, et on a déjà fait une émission ensemble. L'autre jour, il me disait, il l'a redit au micro d'ailleurs lundi, que ça a eu pas mal de succès parce que beaucoup de gens ont téléphoné ou écrit en disant qu'ils connaissaient pas l'action française, qu'ils savaient pas ce qui avait eu lieu, etc., etc. Donc c'est un début. Alors en ce qui concerne Jean-Guy et votre serviteur, nous nous occupons que de l'organisation de cette exposition vente d'œuvres de Maurras et d'écrivains maurrassiens. Nous nous occupons pas de congrès de ceci ou de congrès de cela ou de ceci. Il est souhaitable qu'il y ait beaucoup d'initiatives. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que toutes les idées, les suggestions, les initiatives seront les très très bienvenues. Et je vais donner mon adresse parce que on ne fait que commencer. Et comme vous avez gentiment eu l'idée, Serge, quand on en a parlé il y a quelque temps, de dire que régulièrement on pourra dire ce qui se passe à votre antenne, on va faire une espèce de vie, je dirais, de cette année Maurras grâce à vous. Alors ceux qui veulent m'écrire et me faire des suggestions, puisque je suis le commissaire général de cette exposition, Jean-Guy étant le président de la société éditrice, eh bien je signale qu'on peut le faire à la boîte postale 4424, boîte postale 4424, 78304, Poissy.
Donc, ben, voilà, écoutez, voilà. Je crois que c'est cette série d'émissions qu'on fera, d'intervention autour de l'année Maurras, qu'on fera dans mon émission le mercredi, sera la bienvenue, puisque ça permettra à certains auditeurs et certaines auditrices de se rafraîchir les idées, ou plus exactement de s'informer. Il y a une auditrice qui dit, il y en a assez de ces vieux crotons qui parlent de Charles Maurras. Alors ça, c'est l'argument, d'abord, c'est l'argument imbécile dans toute sa splendeur, parce que c'est l'argument de l'âge. Maintenant, quand on est vieux et qu'on parle de quelque chose, ça n'est forcément pas intéressant. Il n'y a que les jeunes qui ont des choses intéressantes
à
dire.
Bon. En tout cas, dimanche, moi, j'étais avec un paquet de jeunes, qui vendent actuellement, donc il y a deux publications, il y en a une qui paraît tous les 15 jours, qui est donc l'Action française 2000 dirigée par Pierre Pujot. Il y a d'autre part donc la Restauration nationale, qui est une publication qui est remarquablement faite maintenant, qui paraît donc à peu près tous les deux mois, mais qui je crois va devenir mensuelle, ici, qui est dirigée par Hélène Crémier, qui sont complémentaires à mon humble avis. Eh bien, moi j'ai vu des paquets de jeunes qui étaient là, mais il y en avait vraiment énormément qui étaient là. Et si je veux bien qu'on soit un crouton, mais moi je veux bien que si on est un crouton, je vais quand même rappeler ce que j'ai dit l'autre jour, que ça me chatouille un peu les oreilles d'entendre ça, que donc je suis un spécialiste des arts martiaux, que je suis quatrième dan et que je pratique. Bon, et moi le vieux crouton, il est encore
debout.
Le dire sous le nez.
Non mais, bon, c'est un argument idiot, je voudrais simplement...
Mais mon argument est idiot, mais je le donne.
Non, pas le vôtre, c'est un argument qui est au niveau de l'argument de l'auditrice qui dit vieux crouton. C'est pas un argument, ça, dans la conversation, vieux crouton. Vous savez, étant donné qu'il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de vieux cons, forcément, il y a des vieux cons qui disent des choses intéressantes. Statistiquement, ça arrive.
Sur le nombre,
c'est inévitable, on en trouve. Et puis, dites-vous, chère madame, que des vieux cons, il y en aura de plus en plus, puisqu'il paraît que l'espérance de vie ne cesse de croître, et que vous allez arriver dans un monde où, horreur pour vous, non seulement il va y avoir de plus en plus de vieux cons, mais vous n'allez pas tarder à en faire partie, parce que il y a aussi un truc qui se passe, à force d'être jeunes, il y a un beau jour, on se retrouve dans les vieux cons.
Qu'est-ce qu'un vieux con, sinon un petit con qui a pris quelques tours de compteur.
Bon, alors donc, maintenant, ce que je voudrais vous demander, chère madame, c'est si vous connaissez un penseur, plus original, plus lumineux, plus créateur, plus positif que Maurras, je vous supplie de me le faire connaître, parce que moi je cherche ça depuis des années, et ça m'enquiquine de toujours retomber sur Maurras, parce que j'aimerais bien trouver un type qui a le même génie, la même clairvoyance, la même intelligence, le même courage, et je trouve pas. Alors si vous en avez un, n'hésitez pas, même si je suis un vieux croton ou en passe de le devenir assez rapidement, vous pouvez mettre un petit message spécial vieux croton en disant, lisez donc, alors je sais pas qui, Bérou peut-être, parce qu'il paraît qu'il a publié un livre, ou...
Sartre.
Hein?
Bayrou.
Non, Sartre, merci, là, pas de cochonnerie à table, s'il vous plaît.
Voilà. BHL, ça, c'est mon grand copain, hein, c'est mon idole.
Ah, en BHL. Ah, j'ai
c'est
pas
mon idole, celui-là.
Non, j'ai pas apporté le numéro du... Il y a une colonne. Alors, écoutez, si vous passez devant un kiosque à journaux, je vous supplie de prendre le numéro du Monde de ce soir.
Non, pas l'acheter.
D'accord. Écoutez ce que je dis, Claude, un peu. Vous le prenez, vous l'ouvrez, je sais plus à quelle page, peut-être vers la page 8 ou quelque chose comme ça. Il y a une colonne. une colonne de célébration du livre de Bernard-Henri Lévy. Et c'est à mourir de rire. Mais c'est à mourir de rire. Parce que il n'y a pas de mots, c'est pas de la dithyrambe, il n'y a pas de mots dans la langue française pour exprimer les sentiments d'admiration éperdue que ce livre inspire à ceux qui l'ont lu. Et qui sont tous des gens, d'ailleurs, dont BHL a dit du bien dans des articles du Point.
Vous voyez, comme ça, ça.
Alors, le plus joli, c'est quand même le critique du Figaro littéraire, qui s'appelle Monsieur Laloux, je crois, et qui, alors, lui, il se brosse pas. Pour lui, Bernard-Henri Lévy, c'est Baudard, c'est Roger Vaillant, Lucien Baudard, Roger Vaillant, et puis le troisième, j'ai oublié qui c'est. J'ai malheureusement oublié.
Mais enfin, non, tout c'est... ça, je veux bien. Tant que personne n'a le culot de me dire que c'est un penseur, je veux bien qu'on le compare à qui
on veut. Si, non, mais il y a ça. Il y a un penseur lumineux, un écrivain virtuose,
virtuel.
Virtuose, c'est autre chose. Non, mais moi, ça ne me gêne pas. J'ai jamais rien lu de Bernard-Henri Lévy.
Ah, si, il y a des choses qu'il faut lire, quand même.
Moi, je juge cet homme-là sur son décolleté, qui me paraît tout à fait intéressant, mais un peu.
Personnellement, je préfère celui de sa femme.
Oui, bah oui, c'est de votre âge, mon petit. Mais quand vous serez devenu un vieux croton, vous verrez que ça a beaucoup moins d'intérêt que vous le croyez.
Je voudrais vous dire un autre message à côté de celui de la dame au vieux croton. C'est un message d'auditeur. Merci à monsieur Algout pour m'avoir fait découvrir dans l'émission du commandant Guillaume Charles Maurras. Un grand merci.
Eh ben, ça me fait plaisir.
Voilà.
Alors je signale ce sujet pour conclure un petit peu et pas abuser de la patience de mes chers voisins qu'il y a deux livres que je conseille vivement puisqu'on a au cours de l'année, on aura à parler de beaucoup de livres. Et il y a celui de la vie de Charles Maurras par Yves Chiron, qui est un livre absolument remarquable, qui est donc qu'on peut lui demander aussi. On trouve à la librairie du Caine, on la trouve à 27 avenue du Caine, dans le Paris 7e. On le trouve aussi à Chiré, donc comme on le sait, donc aux éditions de Chiré, boîte postale 1. À 86-190 à Chiron-Montreuil, bien entendu. Et il y a d'autre part, il faut rappeler le livre de Madiran, le Maurras de Madiran, qui est également qui est un très bon livre. Ce sont deux livres qui, déjà au départ, peuvent quand même donner quelques idées pour ceux qui ne le sauraient pas. Car, puisqu'on parle de vieux croutons, et que, justement, que l'on parle de peut-être croutons qui ont peut-être esprit ramolli, je ne sais pas, mais Pierre Gaxotte, et ça va être ma conclusion, il avait écrit à ce sujet, au sujet de Maurras, « Il n'existe pas à notre époque de pensée plus riche, ni plus profonde, ni plus forte, ni plus vivante que celle de Charles Maurras. » Alors, peut-être un vieux croton, peut-être Gaxotte est mort maintenant, je ne sais pas si c'est un vieux croton défunt, mais enfin, ces livres d'histoire sont encore lisibles, Maurras est encore lisible, et il y a des montagnes de jeunes actuellement qui sont en train de penser que Maurras, c'est l'avenir. Alors peut-être il est bon de se renseigner, voilà. Et merci Serge de le permettre.
Je voudrais simplement me permettre de dire une chose, je suis un peu moins crouton que certains autres autour de cette table, même que je commence à avoir malgré tout passé le stade du jeune con pour aller de plus en plus, comme disait la Traviorie de Fersan, vers le stade vieux con, mais j'ai encore un certain temps devant moi. Et j'appartiens à cette génération de gens d'après Maurras, dont beaucoup, je parle pas de moi, parce que j'ai viré à ma cutie depuis longtemps, vous le savez, sinon je ne serais pas ici, mais dont beaucoup n'ont de Maurras qu'une espèce d'idée transmise, stéréotypée, transmise à travers une vague idée d'animateur de l'Action française, de tout ça. Ils en font un espèce d'agitateur politique, plus ou moins journaliste, collaborationniste, plus ou moins chose comme ça, qui n'a rien à voir du tout avec l'écrivain et penseur, un vrai penseur, celui-là, pas un BHL, qui a écrit un certain nombre de livres de philosophie politique extrêmement importants, qui découlaient partiellement, mais je dirais partiellement, sur la monarchie, et qui, de toute façon, n'avait rien à voir avec de l'agitation politique collaborationniste. Et c'est très dommage, et je crois qu'il faut le dire, et il faut le répéter, parce que, justement, les gens ne le savent pas, y compris peut-être cette dame qui parlait de vieux crouton, qui ne sait pas du tout où Maurras...
Si le portrait de Maurras qui a été tracé, la caricature de Maurras qui est donnée et qui est diffusée, était celle-ci, c'est uniquement pour créer une espèce de glacis d'interdit pour que les les jeunes gens n'allaient pas vers Maurras, parce que moi j'ai cru ça longtemps, et quand j'ai découvert Maurras, c'était un éblouissement, voilà.
Et moi qui suis pas encore dans la caste des vieux croutons et qui suis encore dans la caste des petits cons, je peux dire, je le sais, bon, étant donné que j'ai quand même relativement étudié la question de la Seconde Guerre mondiale, et je sais que sur ce sujet j'ai pas toujours des positions d'une stricte orthodoxie maurrassienne, mais j'ai une chose que je tiens à dire, contrairement à ce qu'on dit de Charles Maurras, je pense que si la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par un camp plutôt que par l'autre, c'est essentiellement peut-être à la pensée de Charles Maurras qu'on le doit, ce qui a évité en juin 40 de faire basculer la France du côté, une grosse part des élites françaises du côté de l'Axe, c'est justement dû à Maurras et à la pensée maurrassienne qui était hostile
au germanisme.
Maurras a été le premier résistant.
En tout cas,
c'est la démonstration.
Dans mon livre France, notre seule patrie, il y a suffisamment de pages pour savoir ce qu'il en est et savoir ce qu'il pensait et si c'est applicable aujourd'hui. Cela dit, Serge, je ne veux pas abuser de votre gentillesse.
Merci, François-Marie Elgou. À bientôt.
Petite question, où est inhumé Charles Maurras?
À Martigues.
Et puis
à côté de sa maison.
Un auditeur nous dit, Maurras n'est peut-être pas le seul penseur, il y aurait aussi Heidegger.
Oui, alors là-dessus, excusez-moi, monsieur, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de vous, mais je peux vous dire que si vous crachez en l'air, le crachat a le temps de retomber sans toucher personne qui aura lu Heidegger. Hein. Ça, vraiment, c'est bien clair. Personne n'a jamais lu Heidegger, même pas moi.
Et par quel livre?
Il faut arrêter cette imposture, on bassine avec Heidegger comme si... Mais personne en France n'a lu Heidegger, c'est totalement illisible. Il y en a un qui s'est amusé à le copier, c'est Sartre, on a tout compris là, voilà. Bon.
Maurras est né à Martigues le 20 avril 1868.
Oui, et il est enterré à Martigues.
Il est enterré à Roquevert, mais son cœur est dans le jardin de sa maison à Martigues.
Et si on veut aborder Maurras, par quel livre faut-il commencer?
Ben actuellement, je conseillerais les deux livres sur Charles Maurras dont j'ai parlé.
Non, mais si on veut lire Maurras lui-même.
Enfin, lire Maurras,
dictionnaire.
Non, les idées politiques.
Comme édition actuelle qui reste, il reste encore très peu d'exemplaires. Il y a Mes idées politiques, donc édité chez Albatros, et il y a encore quelques exemplaires chez Duquesne. Hein, mais c'est la fin de cette réédition.
Bien, on aura le temps de reparler longuement de Maurras dans les émissions de 2002. Si Dieu veut, et merci François-Marie.
Merci Serge, et merci à mes amis de leur patience.
Claude Timmerman. Alors, je vous ai demandé de venir parce que vous travaillez en ce moment sur un projet de livre.
Ben oui, on me l'a demandé, alors je vais le faire.
Qui s'appelle, enfin, dont le thème c'est l'imposture agro-industrielle.
L'imposture industrielle et la technologie productiviste.
Alors oui, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est vous avez une vision tout à fait originale de ces choses et vous n'hésitez pas à battre en brèche les idées toutes faites,
malheureusement obligé de constater que mes idées que certains considèrent comme des élucubrations sont vérifiées tous les jours. Je regrette d'ailleurs qu'avec la gentillesse de Radio Courtoisie qui me permet de parler de tout ça, il y avait éventuellement de prévu un débat ce soir, et je constate qu'autour de cette table, l'intéressé ne s'est pas présenté, à savoir Monsieur Le Métayer, président de la FNSEA. Car l'histoire est venue, j'ai commencé à parler de tout ça, grâce au Libre Journal, et grâce à présent, et ensuite grâce à Radio Courtoisie, il faut le dire, au moment, je crois avoir été le premier, à dénoncer l'imposture, par voie de radio comme de presse, de ce qu'a été la fausse épidémie de fièvre afteuse qui a été lancée pour permettre aux productivistes d'écouler des stocks de viande surpliés, résultat de mes ventes liées à l'ESB. Et à la suite de ça, bon, j'ai écrit un certain nombre de documents qui, visiblement, ont intéressé un certain nombre de gens, et j'ai creusé la question, et lorsqu'il a été nommé à la tête de la FNSEA, j'ai fait une lettre ouverte à Monsieur Le Métayer, qui a été reproduite dans le Libre Journal,
dans d'autres journaux après, et au bout de sa quatrième parution, car il vient récemment d'être réédité dans un numéro de l'Unité Normande, là il y a quelqu'un qui lui piquait un coup de sang dans une chambre d'agriculture, et monsieur le métayer m'a répondu en m'expliquant que j'avais rien compris au film. Je vais vous lire simplement une phrase de sa lettre qui est très amusante. Sachez que pour ma part, si je vous réponds, je ne rentrerai pas dans un jeu polémiste, j'entends bien. Sachez que l'agriculture ne sera jamais que la résultante des choix de société que déterminent les pouvoirs publics. Ligne d'après. Le productivisme que vous dénoncez n'est que la résistance d'une politique voulue à une époque par les pouvoirs publics. Quatre lignes plus loin. Le développement industriel de la France s'est fait sur la base d'un choix de société qui a tiré ses forces vives du monde à l'époque rurale, entraînant une modernisation liée à la volonté des pouvoirs publics. Alors ce monsieur est très gentil, ou il est capable d'avoir des idées, de tenir un syndicat, d'avoir une vue politique, lui, en tant que producteur, mais je trouve insensé qu'en six lignes, on répète quatre fois les mêmes mots qui, de toute façon, dans le contexte, ne veulent rien dire. Je rajouterai qu'une phrase qui est la suivante. Les agriculteurs seraient selon vous des pollueurs. La nature n'est pas toujours bonne. Vous êtes ainsi que vos enfants parfois malades. Vous faites alors appel à la chimie raisonnée par le corps médical. Oui, monsieur le métayer, la différence c'est que quand moi, autour de moi, quelqu'un est malade et qu'on lui administre un médicament, on n'empoisonne pas le sol et la planète avec. C'est toute la différence.
Alors, qu'est-ce que vous appelez, au fond, l'imposture agro-industrielle
pour l'industrie ? J'oserais dire que l'idée du titre en tant que tel m'est venue de mon ami Henri de Fersan, qui a publié et qui est en train de publier une somme qui fait toute mon admiration d'ailleurs, sur un certain nombre de choses liées à l'imposture antiraciste, et je trouvais que l'idée était la même. L'imposture, pourquoi ? Parce qu'en fait, le développement agro-industriel actuel repose sur cinq mythes. L'idée d'autosuffisance alimentaire à bon marché, l'idée de sécurité alimentaire, l'idée du maintien de l'activité rurale par le productivisme, l'idée de l'impossibilité d'une alternative à la politique agricole actuelle, et enfin, le fait que le monde agricole est garant de l'entretien du milieu rural et naturel.
Bon, allez, il faut revenir, on va prendre point par point.
Tout à fait.
Alors, quand vous dites l'autosuffisance alimentaire à bon marché, c'est une imposture, c'est ça que vous dites ?
Tout à fait.
Ça ne peut pas exister.
L'autosuffisance.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, l'autosuffisance alimentaire à bon marché ?
Ben, je poserai la question quand j'aurai fini de rédiger mon texte, en demandant aux gens, est-ce que vous trouvez que ça, à l'arrivée, c'est bon marché ? Parce que bon marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire pas cher. Si produire pas cher, ça consiste chaque fois qu'un producteur est étranglé, parce qu'au coût et où on lui prend les produits, il est incapable de survivre, il fait appel aux finances publiques pour qu'on évite qu'il soit en faillite, ça commence à être beaucoup moins bon marché. Si pour produire en élevage en batterie des animaux plus ou moins informes, on est forcé d'importer des États-Unis du soja, qui à ce moment-là nous coûte des fortunes dans la balance des paiements, ça devient également beaucoup moins bon marché. Et ainsi de suite, vous comprenez ?
Alors, dans votre article de départ, vous citiez un exemple qui m'a beaucoup frappé, qui est l'exemple du marché chinois pour le commerce du porc.
Tout à fait prodigieux. Je dois dire pour les auditeurs que ça intéresserait, certains me demandent quelquefois d'où je sors mes informations, et je répondrai, c'est très simple, vous avez une excellente revue à vous dégoûter de l'agriculture jusqu'à la fin de vos jours, ça s'appelle La France Agricole, qui est un hebdomadaire, où vous avez l'étalage de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on fait de mieux ou de pire en matière de productivisme, d'empoisonnement de pesticides, de surcharge d'engrais et le reste. C'est extrêmement instructif. Et j'ai découvert là-dedans, habitant moi-même la Manche, qui est aujourd'hui comme la Mayenne et l'Orne, et ce n'est pas un hasard, ce sont les départements limitrophes de la Bretagne. Nous sommes dans une zone qui fait l'objet d'une offensive terrible du lobby porcin qui, après avoir empoisonné les eaux d'Ille-et-Vilaine, entend bien continuer à le faire autour. je me suis demandé un petit peu ce qui se passait dans ce domaine. Et pourquoi est-ce que l'on voulait absolument continuer à créer des porcheries pour produire de la viande qui, de toute façon, ne trouvait pas preneur. Et j'ai découvert qu'il y avait, à l'heure actuelle, des gens dans le lobby porcin qui espéraient exporter sur la Chine.
Sans quoi ils se mettent le doigt dans l'œil.
Alors, non, mais c'est surtout prodigieux. C'est que j'ai fait les calculs par rapport aux chiffres fournis par la France agricole, je répète. Il y aurait actuellement, sur la Chine, une demande d'environ 300 000 tonnes de porc annuel. C'est pas moi qui le dis, j'en laisse leurs chiffres. C'est 300 000 tonnes, attention, c'est pas 300 000 tonnes qu'on a commandées à la France. C'est 300 000 tonnes que n'importe qui peut fournir. Ça veut dire donc que là-dessus, on va en récupérer que quelques miettes, si on les récupérerait. Maintenant, 300 000 tonnes de porc, ça représente, j'ai fait tous les calculs, un nombre de carcasses, un nombre d'animaux, qui correspond à l'arrivée à la moitié de l'équipement actuel de la Bretagne. Est-ce que vous croyez franchement que la Chine va attendre qu'il y ait des importateurs européens ou américains pour leur fournir cette différence avant que les marchés soient mis en place, ils seront équipés toutes les porcheries qu'il faut, les
importateurs. Que ça soit bien clair. Ce que vous nous dites là, c'est que le marché chinois pourrait être alimenté complètement par la moitié de la production porcine de la Bretagne.
Je dis que l'équivalent en installation pour fournir ce qui semble être le déficit chinois de production actuel ne correspond pas à plus que la moitié de l'équipement de la Bretagne. Donc s'amuser à créer des porcheries en France en plus dans l'espoir illusoire de trouver une part de ce marché-là, alors que les porcheries en question seront créées d'ici 2 ou 3 ans, on va encore se retrouver avec des éléments d'installation sur les bras, qui vont conduire, une fois de plus, à des subventions et à des aides pour que les gars partent pas en faillite.
Okay. Et sur la Chine, ça m'étonne beaucoup, cette affaire, parce qu'il faut savoir que la Chine est quand même le premier producteur mondial de porc, que la Chine contrôle quand même 40% de la production mondiale de porc, et que le porc est tellement important dans l'économie chinoise qu'il faut savoir que l'immense majorité des porcheries en Chine sont sous contrôle de l'armée chinoise.
Non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord, Henri, c'est pour ça que cette histoire est totalement aberrante. Il faut savoir aussi, parce que c'est un pays, je dirais, tout l'Extrême-Orient, extrêmement en avance sur le plan de la technologie porcine par rapport à ce qu'on voit en Europe occidentale, il faut quand même savoir qu'au Vietnam et au Laos, ils ont résolu, eux, depuis longtemps, le problème du lisier, sans empoisonner les gens, les pendant dans les champs. Le lisier est traité, transformé intégralement en méthane et en résidus secs, et sert comme source d'énergie. On aimerait bien qu'on puisse en faire autant.
Maintenant, une des conséquences de... On va survoler les,
non,
les raisons
sûr,
de la posture, parce qu'on ne peut pas y passer toute la soirée, mais c'est pour donner quelques éléments de réflexion. Une des conséquences du productivisme, ou plus exactement, de la volonté délirante de créer une autosuffisance à bas prix, à bas coût.
C'est plus d'autosuffisance, on l'a dépassé depuis 35 ans.
C'est dépassé depuis 35 ans. Disons, une industrie, une agro-industrie d'exportation prospère à bas prix. Une des conséquences, c'est les problèmes d'hygiène alimentaire, de sécurité alimentaire.
Il y a des problèmes de sécurité alimentaire.
On a eu l'ESB, on a eu des choses comme ça.
Oui, il y a une histoire très amusante, là, que j'ai vue à la télévision, comme tous les auditeurs ont pu le faire. Maintenant, on a inventé un nouveau jeu, ça fait partie de la deuxième imposture, ça, c'est de parler de la sécurité alimentaire. Alors, chacun sait que jusqu'à maintenant, on ne mangeait que des aliments pourris et qu'on était tous malades. J'ai vu des vétérinaires me l'écrire, ce genre d'ânerie, qu'avant les œufs étaient contaminés, que les poules étaient malades, elles restent à l'avenant. On se demande comment on a pu vivre avant la fin du XXe siècle. C'est complètement aberrant. Alors là, il y a une firme qui s'appelle Sonoble, j'ai vu ça donc à la télévision, qui vient de mettre à portée du grand public le contrôle de la chaîne du froid. C'est le nouveau jeu. Le nouveau jeu, ça consiste à dire que s'il y a quelque chose de contaminé dans un aliment, c'est parce qu'il y a une rupture de la chaîne du froid. Donc la rupture de la chaîne du froid, ça intervient quand ? Au départ, ça intervenait entre le producteur et l'usine de traitement, après entre l'usine de traitement et le détaillant, et maintenant le fin du fin, c'est de contrôler la chaîne du froid entre le détaillant et le consommateur final. Alors là, ça devient prodigieusement drôle, parce que moi, je me permets de poser une question. Je voudrais savoir d'où sortent les bactéries. Il est clair qu'à partir du moment où on a un produit qui est sain, qui est sous scellé, comme peut l'être un yaourt ou comme peut l'être quelque chose de ce genre, miraculeusement, à partir du moment où il y a une rupture de chaîne du froid, les bactéries apparaissent. C'est extraordinaire, ça. Il y a 100 ans, Pasteur nous a expliqué tout de même que la génération spontanée, ça n'existait pas. Ouais, alors, faut qu'on arrête de se foutre du monde, ça veut dire quoi?
Les moutons sur les lits font des souris, vous savez ça.
Ah, oui, c'est très mignon, cette histoire-là. Mais il faut qu'on arrête de se foutre du monde comme on le fait et qu'on dise la vérité, à savoir que ces gens-là sont incapables de fournir dans l'agro-industrie un produit totalement exempt d'un minimum de pourcentage de listeria ou d'autres choses sympathiques.
Enfin, heureusement.
Lesquels sont capables, par contre, de se développer quand la température augmente.
Mais donc, heureusement qu'on ne fabrique pas que des aliments qui sont d'une parfaite innocuité, parce que autrement on deviendrait sensible à n'importe quel coup de vent porteur d'une bactérie.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est ce qui se passe. Mais c'est là où on voit bien qu'il raconte de toute façon n'importe quoi.
Alors, un autre argument qui est souvent brandi en faveur d'une agriculture ultra-productiviste, c'est il faut maintenir l'activité rurale et par ce moyen-là, on va y arriver. Et
oui.
Vous dites pas du tout.
Ah ben, écoutez, ce problème est très simple. À partir du moment où vous vous lancez dans des activités de cet ordre, je reprends d'ailleurs, j'insiste très lourdement là-dessus, je tire à boulet rouge sur le productivisme agricole et un certain nombre de directives de la FNSEA. Je ne tire pas à boulet rouge sur tous les paysans et tous les agriculteurs qui respectent leurs terres, leurs cultures, leurs animaux et les clients et qui aujourd'hui crèvent de faim à cause de la dérive dont on est en train de parler et qui devient quelque chose qui a un maillage horizontal comme vertical, car derrière le productivisme de masse, vous avez la grande distribution, vous avez les coopératives agricoles, vous avez les abattoirs, tout est contrôlé de A à Z. Et vous avez en bas des gens aujourd'hui qui ont sur le dos des millions et des millions d'investissements et qui ont en fin de mois un revenu de smigard. C'est ça le résultat. Or, pour pouvoir utiliser et arriver à tirer un minimum d'argent de choses aussi lourdes en investissement et en frais de fonctionnement, il faut des volumes ou des surfaces énormes. Résultat, l'agriculture productiviste est le premier facteur de désertification rurale. Autrefois, les gens vivaient sur 10, 20, 30, et puis 40, 50 hectares. Aujourd'hui, ils en ont 200. J'ajoute qu'on arrive aujourd'hui dans une deuxième dérive extrêmement grave, c'est que comme les gens n'ont plus les moyens d'acheter les surfaces correspondantes, et que les SAFER continuent à confisquer le sol de France au profit des seuls agriculteurs, j'en profite d'ailleurs, le cas échéant, pour lancer un appel à la radio, si un avocat veut bien s'intéresser à la question. Je souhaiterais pouvoir introduire un recours auprès de la Cour européenne de justice contre le monopole des SAFER qui, face à la Déclaration des droits de l'homme, prive totalement tout Français du droit à la terre. Il y a des gens qui s'intéressent, qu'ils contactent Radio Courtoisie ou le Libre Journal.
Et ça, vous avez fait un papier dans le Libre Journal sur cette question, et c'est vraiment un scandale invraisemblable, cette affaire de la confiscation d'une partie du territoire national par des intérêts syndiqués, on ne sait pas trop d'ailleurs, une espèce de gang qui décide qui a le droit d'acheter la terre, qui n'a pas le droit. Pour des motifs qui sont inextricables.
Je ne suis pas trop informé de la question, mais c'est immédiatement le mot qui me vient à l'esprit. En fait, c'est une sorte de kolkhoz capitaliste, en fait.
Mais on est complètement dans ce contexte, et aujourd'hui, il devient européen, car il faut savoir que les SAFER sont gorgées de terre qu'elles n'arrivent plus à vendre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit débouler un paquet de gens, notamment les Hollandais et les Allemands, pays où la terre est beaucoup plus chère qu'en France, et qui viennent reprendre ces propriétés-là. Ce qui fait qu'on est déjà dans un système où on a une production pléthorique, qu'on n'arrive pas à vendre, qui est subventionnée par les impôts de tous les gens qui travaillent en dehors du domaine, c'est-à-dire que ce sont les non-agriculteurs qui le financent, et en plus on va chercher des gens à l'extérieur au détriment de l'installation potentielle de jeunes agriculteurs ou au détriment de ceux qui voudraient avoir des petites propriétés ou qui voudraient simplement disposer de quelques hectares autour de leur maison, tout le monde devrait en avoir le droit, pour une fois de plus avec la richesse nationale, subventionner une production qui va être assurée par des gens de l'extérieur.
Et là, on voit bien que ça participe de la volonté de déraciner, de mobiliser des populations qui, normalement, sont les populations enracinées par excellence, c'est-à-dire non nomades. Le paysan, c'est le contraire même du nomade. Il faut le nomadiser en disant le paysan français, il peut partir au Canada ou en Hollande, le paysan anglais peut venir s'installer en France.
Et on supprime ça à tel point, c'est une excellente remarque, ça, Serge, qui, à l'heure actuelle, se développe un nouveau système de culture qui exclut l'idée de fermier ou d'agriculteur. C'est-à-dire que vous avez des terres, que vous décidez d'emblaver cette année, je vais dire n'importe quoi, en maïs par exemple, vous contactez un entrepreneur, le type passe à date fixe, il fait les labours, les traitements, les machins, il récupère, Yvan s'occupe de tout, et à l'arrivée, ça va vous rapporter à peu près 20 ou 30% du revenu moyen de la terre en question, sans que personne s'en occupe, sans que personne ne soit dessus. Et ça également contribue largement à la désertification du milieu rural par le productivisme.
En fait, ils ont trouvé une sorte... c'est un peu l'analyse que j'en ai quand je regarde les questions agricoles. Ils ont trouvé une sorte de communisme qui fonctionne.
Tout à fait.
C'est-à-dire, avant, la terre appartenait aux soviets, dirigés par le commissaire machin, et le paysan, il bossait pas trop parce que c'était pas pour lui. Tandis que là, la terre appartient, à la banque X, dirigée par machin qui n'est plus commissaire, qui est maintenant directeur de banque.
C'est ça.
Mais là, le paysan est obligé de bosser, sinon c'est les huissiers.
Absolument.
Voilà. Alors, des messages, il y a beaucoup de messages, mais qui reviennent sur des choses qu'on a dites avant. Un auditeur nous dit, dans les années 85, il y avait de par le monde, d'après le magazine Terre Sauvage, qui entre parenthèses est un excellent magazine, 150 000 agriculteurs par an qui décédaient de maladies pulmonaires dues à l'absorption des pesticides utilisés.
Très honnêtement, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu énormément de cas d'accidents pendant toute une période. C'est tellement vrai que, curieusement, maintenant, alors qu'on n'en parle plus, tous les traitements sont faits avec des masques. Il faut quand même savoir que depuis 20 ans, et heureusement, la toxicité de ces produits a notablement baissé. À l'époque, on travaillait avec des organophosphorés comme le parathion. C'était un truc à tuer un régiment à 10 km à la ronde.
Arrêtez-le, parce que là, s'il se lance sur sa passion pour les...
On va plus m'arrêter.
C'est sûr. Et un auditeur nous dit, les salariés chinois gagnent environ 300 à 350 francs par mois. Comment voulez-vous qu'ils achètent des produits vendus dans les entreprises qui ont des prix de revient bien supérieurs? On est donc obligé de subventionner les exportations. Donc, en fait, c'est le contribuable français qui nourrit le paysan chinois.
Je suis tout à fait d'accord
qui paye le paysan français.
Avec cet auditeur, mais enfin, faudrait qu'on arrête. Pourquoi est-ce que, une fois de plus, parce qu'il s'agit de produits agricoles, on se refuse à suivre les règles élémentaires du marché? Et ils le savent très bien, parce que quand ils commencent à vous dire on est là pour nourrir le monde, ils s'en foutent totalement de nourrir le monde. Vous savez ce qui se passe en ce moment. On pique les veaux à 48 heures, on les euthanasie pour maintenir les cours. On a, pendant des mois, massacré des troupeaux entiers sous des histoires fallacieuses qui n'existaient pas de fièvre afteuse, uniquement pour maintenir les cours. Donc, qui nous explique pas qu'ils sont en train de vouloir nourrir l'humanité, ça a bon dos. S'ils veulent nourrir l'humanité, alors ils partent avec cette technologie, qui a peut-être du bon dans certains endroits, si on veut, mais ils vont l'exporter ailleurs dans le pays en question. La France n'a pas pour mission sur son sol de nourrir l'humanité sans la nourrir, au détriment de la qualité de ses eaux, de la destruction de son environnement, de la disparition de la faune et de la flore, du massacre des paysages traditionnels, etc. Je lisais dans la Une récemment une lettre d'une lectrice qui expliquait que la disparition de l'agriculture dans certaines zones allait conduire à la disparition des paysages traditionnels. Mais qu'est-ce qu'il en reste des paysages traditionnels? Allez dans le Calvados ou dans l'Eure, vous allez voir ce qui reste du bocage normand. Aujourd'hui, c'est la disparition des agriculteurs qui pourrait être le gage de la restauration des paysages traditionnels.
Vous êtes en train de me faire plein de copains, c'est
bien. Je suis en train de me faire plein de copains. Bon. D'ailleurs, il y a quelqu'un m'a dit un jour, vous allez vous faire casser la figure. Je lui ai répondu, je n'attends que ça. Là, ce jour-là, il y aura du monde au procès.
Voilà, ce livre, vous nous le prévoyez pour quand alors?
Vous êtes terrible, Serge, parce que je ne voulais pas parler. Je vous ai dit ça incidemment.
Ah ben oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse.
Il est en projet, il y en a un tiers d'écrit. Bon, j'ai allez. Encore besoin d'un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas fini.
Allez, finir votre travail.
Simplement, je avant de partir, ça n'a rien à voir, mais je ne voudrais pas oublier ça, que j'aurais dû annoncer, et c'est très désagréable, j'allais l'oublier. Mes amis de France Royaliste organisent à Caen, le 14 décembre, une soirée débat animée par Hilaire de Crémier et Frédéric Delambre sur l'euro, thème, avenir et prospective sur l'euro.
Donc
le 14 décembre à 20h30 au centre des congrès à Caen.
En plus, vous êtes royaliste.
J'ai tous les défauts, mon cher. Je suis légitimiste. Je suis un catholique qui pense mal. Je suis épouvantable.
Un légitimiste moraci, on aura tous vu.
Un de mes lecteurs, ce qui n'est pas le moindre défaut.
Et en plus, oui, alors ça, c'est une catastrophe.
J'ai écrit un livre avec Richard Sunder sur l'alimentation, justement.
Ah, bon, bah.
Où je passe tous les aliments, enfin, beaucoup d'aliments et de médicaments à l'électrographie pour voir comment ils rayonnent et voir leur rayonnement et voir leur qualité. Alors évidemment, là aussi, on se fait des amis avec ça, parce que c'est très dérangeant.
Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien avoir accès à votre livre.
Mais parfaitement, oui.
Alors vous venez d'entendre notre monsieur Adjo, qui sera notre invité de la deuxième partie, et que j'avais déjà reçu pour parler
du bilan bioénergétique.
Du bilan bioénergétique que vous aviez construit à partir de la machine de Killian, en développant l'effet Killian.
En perfectionnant.
Et puis là, vous venez nous parler, on va voir ça tout à l'heure, d'un sujet qui n'a vraiment rien à voir, semble-t-il, Encore que je vous poserai des questions sur l'utilisation de votre appareil pour identifier les états de conscience du tireur à l'arc, mais vous venez nous parler du tir à l'arc.
Ah oui, là, je viens vous parler
du tir à l'arc. C'est extraordinaire. Merci, Claude Timmerman. Alors, on peut vous lire dans le Libre Journal.
Ben oui, de temps en temps, un rédacteur en chef charmant qui a la faiblesse d'accepter un certain nombre de mes papiers.
Un garçon très bien que je connais personnellement, j'ai beaucoup d'amitié pour lui.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci.
Il ne refuse jamais une augmentation à ces journalistes.
Jamais, je double souvent les salaires. Si vous voulez, Claude, laisser la place à M. Labouche, que nous allons interroger sans désemparer, comme disent nos amis les gendarmes. Des messages peut-être Non. Il y a beaucoup de messages.
Il y a des messages.
Il y a quelqu'un qui me dit si vous lisiez aussi les messages pro-israéliens et pas uniquement les messages pro-palestiniens, on vous ferait plus confiance. J'ai lu aucun message ni pro-israélien ni pro-palestinien. Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. On a eu des messages pro-palestiniens. Palestine vaincra.
Non, je ne vois pas.
Non.
Mais ça revient un peu sur tout. Hein, donc,
on fera ça en début de deuxième partie. Alors
En début de deuxième partie, j'aimerais bien faire les annonces, Serge, parce que je ne galoperai pas à la fin.
Vous êtes pressé, monsieur Labouche ? Bon, alors je vais répondre aux questions. Alors allez-y, Victoria.
Je fais quoi, les annonces ?
Les questions.
Les questions, les questions.
Dites-moi.
Allez-vous parler de la pétition contre Jacques Faizan au Figaro ? Hier, chez Claude Reichmann, Joseph Massé-Scarron a dit que c'était une affabulation.
C'est ma parole contre celle de Scarron, de Massé-Scarron. Et c'est également d'ailleurs la parole de Faizan, puisque je crois savoir que Faizan a confirmé officiellement, dans l'émission de Jean Ferré. Je ne l'ai pas entendu malheureusement, mais on m'a rapporté ça, parce qu'il y a des rapporteurs. Donc M. Massé-Scarron devrait se renseigner sur ce qui se passe dans son journal.
Est-ce que nos amis socialistes veulent créer un musée de l'immigration ?
Oui, Elsa. Mais je suis assez pour, moi.
À l'attention.
Si on met les immigrés dedans. Hein ? On les empaille.
C'est
3 millions de pièces, 6 millions de pièces dans ce musée. C'est quand même autre chose que le musée de l'homme. Hein.
À l'attention d'Henri de Fersan, définition du mot antisémitisme, mot créé vers 1880 par un pamphlétaire allemand et signifiant hostilité envers les juifs, en tant que groupe ayant acquis un pouvoir excessif économique et politique dans certains pays d'Europe. L'antisémitisme n'a rien à voir avec l'hostilité envers les sémites en tant que race. Et pension, monsieur de Fersan.
Antisémitisme, a priori, quand on analyse.
Bon, on va faire recherche Anna là-dessus. Quand même.
24. Le problème avec l'œuvre de Maurras, c'est qu'elle est introuvable et très chère. Pouvons-nous espérer des rééditions type livre de poche à l'occasion des 50 ans de sa mort ? Je voudrais savoir. Je voudrais savoir si monsieur de Fersan est vraiment trop petit pour que monsieur de Beketch lui, très petit pour que monsieur de Beketch lui donne sans arrêt du mon petit Fersan. Il n'est pas petit.
Il est
volumineux que monsieur de Beketch.
Il est grand et gros et même assez vilain, il faut dire.
Ça s'aspira.
Mais c'est un. Pourquoi je l'appelle mon petit ? Parce que c'est ce qu'on appelait à minute un bébé catch. Il y a comme ça des gens qu'on appelle des bébés catch parce que je les ai pris dans le, j'ai ramassé dans le caniveau à la porte d'une église et j'en ai fait des journalistes.
Il m'appelle tout petit, tout, mon petit, tout simplement parce que Serge de Becketch est plus âgé que mes parents. Voilà.
Oui, bon, ça va. Hein,
voilà. Donc, il fait quasiment partie des vieux croutons.
C'est un de mes filleuls de boulot. C'est pour ça que je l'appelle mon petit. C'est amical. Il n'y a aucun mépris là-dedans.
C'est gentil. De la part de Madame Chirac. Je proteste.
Oui.
Mon mari n'est pas un pantin.
Ah bon,
c'est un marionnette.
C'est très joli, ça. C'est très, très joli.
Pouvez-vous nous donner la référence de la feuille de chou des syndicats de la magistrature?
La feuille de chou, non, il y a un livre, on parle du livre sans doute. Ça s'appelle Police, vos papiers, faire confiance à la police, ou je ne sais pas. Mais j'en sais pas plus.
Bon. Quand vous parlez de l'esprit de Munich, ça ne dit rien du tout à un jeune auditeur de 22 ans.
Eh bien, il a qu'à lire son livre d'histoire, monsieur, lisez, Malais Isaac, vous saurez ce que c'est que l'esprit de Munich. L'esprit de Munich, c'est tout simplement l'esprit capitulaire de l'Occident vautré qui, face au danger hitlérien, a préféré pactiser plutôt que de prendre les armes. Et Churchill disait, ils ont préféré le déshonneur à la guerre, ils ont eu le déshonneur, ils auront la guerre.
Parlez-nous du procès du préfet.
Cela dit, j'aurais été Munich, quoi. Chacun sa... Comment on dit déjà? Je ne sais plus. Enfin, chacun ses soucis.
Ses valeurs.
Chacun
ses valeurs. Non, pas les mêmes valeurs.
Parlez-nous du procès du préfet Bonnet. Qu'en pensez-vous?
Je pense en général, au moins une fois par semaine. Non, je n'ai pas d'opinion sur l'affaire Bonnet. Je trouve que c'est la démonstration que cet État est devenu fou et que cette justice est folle aussi. C'est-à-dire, quand un État dénonce un préfet parce qu'il a exécuté les ordres de sa hiérarchie et que des magistrats acceptent de le poursuivre, c'est vraiment à se taper le derrière contre la suspension. Voilà. Autre chose.
Aujourd'hui, les vieux cons, entre guillemets, ne s'intéressent pas à l'histoire, mais à l'euro.
Voilà. Bon, ben,
attendez, j'en ai d'autres. Non. Attendez, j'en ai
d'autres.
Minutes, là. C'est Franck qui me perturbe.
Caft en plus.
Entre vieux croutons et jeunes écervelés, je préfère vieux croutons. Signé, un jeune pas si écervelé que cela.
C'est bien.
Alors, rappelez qu'un des maires de la commune où... Oh là là, je ne l'ai pas lu celui-là, je ne peux pas. Je vous lirai à un autre moment. Bon.
Quand vous serez arrivé à déchiffrer...
Je suis toujours surprise d'entendre le silence lorsqu'il s'agit de vendre la terre de France aux étrangers. La terre de France doit rester aux Français.
Oui.
Quelqu'un qui dit à M. Timmermans, mais comme il n'est plus là, qu'il a un sacré culot, qu'il est petit-fils d'agriculteur et qu'ils sont obligés de prendre des surfaces de plus en plus grandes. En se produisant de plus en plus avec des produits nocifs, ils arrivent à peine à vivre.
Mais c'est exactement ce qu'il a dit.
Bah les agriculteurs ont été ruinés par les grandes surfaces.
Bah oui, c'était...
Moi, je croyais que c'était ce qu'il pensait, voilà, mais enfin bon. De la part d'un vétérinaire, les truies, non, pardon, je ne sais pas, ça doit être les terres peut-être, les truies chinoises produisent par portée environ 50% de porcelet de plus que les nôtres, et les Chinois refusent de les exporter chez nous.
Alors, les Chinois, ils sont plus prolifiques, quoi, même quand ils sont cochons. C'est terminé.
Voilà, alors, tiens, je vous lis celui-là.
Non, c'est fini.
Bon, c'est aussi bien que je vous lise pas. Mais vous allez le lire.
Au Mans, sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Becketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 décembre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
C'est à moi ?
Bah oui.
Ah, j'ai raté, j'ai pas vu que c'était à moi de parler. Puis
même le pas rouge de, ne lui a pas monté à l'œil.
Quelle horreur, je suis la panique. Excusez-moi, chers auditeurs, j'entends plus rien, j'ai pas de retour. Oui, alors vous vouliez faire les annonces ?
Oui, comme ça on sera tranquille. La compagnie théâtrale.
Merci. Eh bien, on ne va pas vraiment changer d'univers, parce que je me tourne maintenant vers Monsieur Crémieux et Monsieur Dilies, c'est oui, ça? C'est comme ça qu'il faut prononcer votre nom? Tenez, si vous voulez prendre le micro...
Dilies.
Ah, on peut toucher le micro, Franck, ou... Non, il faudrait que vous vous asseyiez là, si vous voulez. Parce que autrement, Franck va vous faire les gros yeux, et ça va être absolument effroyable. Donc, le Séché, c'est le Cercle Scientifique et Historique... qui est un groupe de réflexion, de recherche.
Absolument.
Sur l'inhérence biblique, au fond.
En gros, oui. Alors ça va un peu plus loin.
Ça va un peu plus loin, mais en gros, c'est ça quand même.
C'est défendre l'inhérence biblique.
Et qui publie une revue intitulée Science et foi, qui est un trimestriel.
Absolument.
Alors, ça, j'ai présenté la chose rapidement. Maintenant, je vais vous laisser, Monsieur Crémieux. Ou Monsieur Dilly, je ne sais pas lequel prendra la parole et comment vous vous êtes répartis les tâches. Mais je vais vous laisser présenter plus à fond cette très belle association qui fait un travail extrêmement intéressant.
Merci beaucoup. Tout d'abord, à notre sens, il est important de situer le contexte et l'intérêt pratique de cette œuvre. Je crois que c'est Fénelon qui disait que l'erreur ne provient pas tant qu'on raisonne faux sur des principes justes, mais qu'on raisonne juste sur des principes faux. Et donc nécessaire de rétablir des principes justes si l'on veut raisonner correctement, si on veut arriver surtout à des résultats qui soient conformes à la vérité. Je crois que tous vos auditeurs et plus largement toutes les personnes saines d'esprit se rendent compte que le monde moderne est en crise, une crise qui affecte tous les domaines de la pensée, une crise morale, une crise philosophique, une crise intellectuelle, une crise sociale, une crise religieuse, et par conséquent le monde est en crise. Il ne s'agit pas d'une grande nouvelle, il s'agit d'un constat. On a pu déterminer l'origine de cette crise qui provient, et je pense que les catholiques, les auditeurs catholiques s'en rendent compte, de la laïcisation du monde, c'est-à-dire de la séparation du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel. Mais malheureusement, peu de personnes sont allées se demander comment se fait-il que nous ayons pu aboutir à une laïcisation du monde. Comment se fait-il que le pouvoir spirituel a pu être séparé d'avec le pouvoir temporel ? Mais une des raisons essentielles, ça a été la laïcisation de la vision du monde. À partir du moment où on a une vision du monde qui n'est plus conforme avec l'enseignement des pères de l'Église, avec l'enseignement des livres saints, on a préparé les esprits à laïciser la société. Et par conséquent, il serait vain de vouloir recristianiser une société en ayant des fondements, c'est-à-dire une vision du monde qui ne soit plus conforme avec, avec l'enseignement de l'Église et l'enseignement de la Bible. Et c'est un peu ce que disait d'ailleurs George Orwell dans 1984, lorsqu'il disait « Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Par conséquent, si l'on n'a plus un passé qui est conforme à la Genèse, on contrôle un avenir qui est un avenir laïcisé, avec toutes les scories que l'on peut constater malheureusement.
Il y a une chose qui est, que je remarque, chaque fois qu'il y a une crise un peu lourde, ou qu'il y a des attentats, ou une espèce de mouvement de panique qui se crée dans l'opinion publique, c'est que, en réalité, la laïcisation, elle est très 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 en surface. Parce que les mêmes gens vous disent, qui vous ont expliqué pendant 8 jours ou 8 ans que Dieu n'existait pas, que tout ça c'était des foutaises, et qu'il fallait vraiment être un demeuré pour croire à quelque chose qui soit pas rationnel, prouvé par la science et démontré, les mêmes gens vous disent quand ça va mal, ben voilà, ça c'est la preuve que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'accepterait pas qu'il se passe des choses comme ça. Donc en réalité, ils sont croyants. Ils sont croyants,
oui,
mais simplement ils pensent que Dieu ne fait pas son boulot.
Oui, enfin c'est une croyance particulière.
Oui, donc c'est entendu, mais donc il y a une base, et ils ont bien l'impression que Dieu devrait gérer la planète, devrait s'occuper des hommes, un peu comme un enfant range ses soldats de plomb dans la boîte après avoir fait une bataille.
Absolument.
Et tout va très bien, etc. Et leur faire comprendre que justement la question du libre arbitre se pose à ce moment-là, c'est-à-dire que Dieu nous a créés libres, c'est-à-dire libres de faire des bêtises, et que s'il intervient à chaque fois qu'on fait des bêtises pour réparer nos bêtises, alors ça veut dire qu'on est plus libre,
oui.
Et que simplement on est ou des marionnettes ou des automates ou des soldats de plomb. Mais c'est très difficile de faire passer ce message, mais le fait que les gens, en quelque sorte, accusent Dieu de tous les maux de la terre prouve bien que même les athées croient en Dieu.
Oui, sous un certain aspect absolument, mais de quel Dieu s'agit-il? Il est important, si on veut rechristianiser la société, ou alors à ce moment-là, le Dieu est bien connu et bien repéré. Il s'agit de redonner une vision du monde qui est conforme au Livre Saint, et il faut avoir les éléments scientifiques qui permettent d'appuyer tout simplement cette thèse, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de la double pensée, il n'y a pas de possibilité de vivre en complète schizophrénie, d'avoir à la fois un enseignement religieux qui défend le déluge, et d'un autre côté avoir un enseignement profane qui le nie.
C'est le problème politique qu'on voit à l'heure actuelle, quand vous avez des femmes politiques, par exemple, ou des hommes politiques qui disent, à titre personnel, je suis contre l'avortement, mais à titre de ministre ou de secrétaire d'État, eh bien, je suis obligé d'appliquer la loi, et donc j'applique la loi.
Il s'agit d'une schizophrénie.
Donc c'est un état schizophrène. Et bien entendu, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Les schizophrènes, en général, on les soigne ou on les enferme parce qu'ils deviennent. Il y a un risque de danger.
Absolument.
Ils sont pas systématiquement dangereux, mais c'est quand même. Il y a un gros risque. Et donc cette société est dangereuse à cause de cette schizophrénie.
Absolument.
Et je crois, si je peux me permettre de prendre la parole, je crois que c'est important de saisir à quel moment cette cassure s'est opérée, dans l'esprit occidental en particulier, parce que la science est née en Occident. Tout au moins la science moderne est née en Occident, et la grande cassure s'est produite avec Copernic et ensuite avec Galilée au début du XVIIe siècle. On a proposé aux chrétiens un système héliocentrique qui substituait au système géocentrique, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système où la Terre était au centre de l'univers et le Soleil était au centre de l'univers. Et ce système s'est fait avec une science naissante qui remontait à la Renaissance et en opposition à la révélation. La révélation nous enseigne le contraire.
Et c'est d'ailleurs une imposture. J'écoutais l'autre jour sur Europe, l'émission de Calvi, qui est tout à fait remarquable, où il avait invité un astrophysicien qui disait en réalité, on dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais on pourrait très bien dire que le Soleil tourne autour de la Terre, ça ne changerait absolument rien au calcul.
Si vous le permettez, on va en parler.
Non mais tout à fait, évidemment. Ni Copernic ni Galilée n'ont réussi à prouver quoi que ce soit concernant le mouvement de la Terre ou du Soleil, et c'est d'ailleurs pour la bonne raison pour laquelle ils ont été condamnés. Bellarmin était un bon mathématicien, savait parfaitement repérer les épreuves de Galilée et avait parfaitement remarqué que ses calculs ne tenaient pas. C'est pour ça qu'il a été condamné. Mais je crois que on n'en est pas là, parce qu'en fait c'est mis en route un processus scientifique qui devait se substituer à la vision traditionnelle. Comme le disait tout à l'heure monsieur à travers son livre sur l'arc, on a substitué une vision traditionnelle, une vision transcendante à une vision horizontale et scientifique. Et ça s'est fait en grande partie par la personne de Galilée. Je voudrais citer une petite phrase de Galilée de l'époque, où il écrit « Ce que l'expérience sensible ou la démonstration oblige à conclure ne peut être mis en doute ou révoqué par l'écriture, qui prise à la lettre semblerait dire autre chose, puisque chaque mot de l'écriture n'est pas déterminé par des contraintes aussi rigoureuses que chaque effet de la nature. » Avec ça, si on ajoute que Galilée écrit un petit peu plus loin, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, on se trouve devant une situation où la science ne peut pas se tromper. Et s'il y a dilemme ou problème entre la science et la foi, c'est forcément la foi et la Bible qui a tort. Alors, et qui doit se réformer.
Il n'y a pas de contradiction, parce que quand Galilée dit le livre de la nature s'écrit avec des nombres, c'est très exactement la phrase de l'Écriture qui dit Dieu gouverne avec le nombre et la mesure.
Dieu a tout créé avec poids et nombre.
Avec poids et mesure. Poids et mesure, voilà. Bon, donc on est exactement dans le même ordre d'idée. Le langage mathématique, dans son aboutissement éventuel, un jour, on ne sait pas, rendra évidemment compte de la gloire de Dieu.
Oui, mais on ne peut pas réduire le monde au nombre.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que Galilée, en fait, inverse la logique. C'est-à-dire qu'il réduit le monde au nombre, alors que le monde n'est pas nombre dans la pensée divine, puisqu'il a créé la création. Le monde est nombré en Dieu, mais il n'est pas que le nombre. Or, Galilée, lui, résume le monde au nombre, et deuxièmement, il inverse l'autorité, c'est-à-dire qu'on passe de l'autorité spirituelle à l'autorité scientifique.
Mais ça, c'est de signaler, alors c'est d'autant plus clair, ce danger, il est d'autant plus clair qu'il est signalé dans l'écriture par l'épisode du dénombrement de David, quand David décide de faire un dénombrement de ses armées, Dieu le punit pour ça.
Tout à fait.
Puis ça, c'est un grand mystère, parce que Dieu lui dit, en quelque sorte, tu n'as pas à compter ce qui ne t'appartient pas.
D'ailleurs, peut-être que David ne pouvait pas se rendre compte, je dirais, du pouvoir du nombre, mais...
Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Dans l'écriture, est très clair là-dessus. Il savait que ce qu'il faisait était mal, et quand il a été puni, il a été puni quand même assez sévèrement, et il en a demandé amèrement pardon.
Oui, mais je dirais que David ne pouvait pas percevoir le monde tel que nous le percevons, le monde moderne, qui est un monde qui se résume au nombre, puisque tout est nombré, et l'homme se résume à un nombre. L'homme, en fait, est l'homo economicus, c'est-à-dire, on le considère en tant qu'il produit, qu'il vend et qu'il achète. En dehors de ça, il n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie spirituelle, c'est pas nombrable. Il n'y a pas de vie affective, c'est pas nombrable. Il n'y a pas de vie familiale, c'est pas nombrable. C'est pour ça qu'on propose un certain nombre de choses qui ne sont révélable qu'à travers les statistiques. L'homme est identifié au nombre.
Si on vous passe permet de l'économie du verbe. 2,3.
Voilà. Ouais. On passe de l'économie du verbe, qui est l'économie de la tradition, à l'économie du nombre. Et cette réduction au nombre fait que l'homme, qui était au sommet de la création, créé par Dieu à l'image de Dieu, se retrouve en fait à rien. Un amas de tissu et de matière. Qui est l'objet du calcul et du nombre. La réduction de l'humanité au nombre. Et on en arrive aux petits embryons surnuméraires, en nombre trop nombreux, qu'il faut éliminer ou se servir pour faire des expérimentations.
Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, dans la Genèse, le seul moment où il n'est pas dit que Dieu vit que cela était bon, c'est le deuxième jour.
Tout à fait.
C'est quand Dieu crée le système binaire.
Le système de l'ordinateur.
Qui est le système.
Absolument.
Un auditeur qui, s'il nous écoute encore, va encore téléphoner pour râler parce que on diabolise l'informatique. C'est pas le problème, c'est pas diaboliser l'informatique que dire que l'informatique est construite sur un système de binaire et que le seul moment dans la Genèse où il n'est pas dit Dieu vit que cela a été bon, c'est le deuxième jour. La Genèse dit deuxième jour, alors qu'elle dit premier jour, Dieu vit que cela a été bon et ce fut le premier jour, Dieu vit que cela a été bon et ce fut le troisième jour, mais le deuxième jour, c'est le deuxième jour simplement. Et Dieu voit pas que c'était bon, parce que c'est la création du système binaire d'une part, de l'antagonisme sans issue d'autre part, puisque c'est deux forces équivalentes qui s'affrontent, et il faut la création du troisième pied, en quelque sorte, du trépied, le troisième jour, pour rentrer dans une création qui redevient harmonieuse d'un seul coup.
Et Joseph de Maistre, parce que là on va arriver directement aux travaux du Séché, Joseph de Maistre, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, avait remarqué, avait plus exactement se reproché au monde post-révolutionnaire d'amener toute une somme de désordre. Et il souhaitait l'arrivée, il prophétisait même l'arrivée d'un homme de génie qui serait à la fois un homme de science et de foi et qui pourrait mettre fin à ce siècle qui durait beaucoup trop. Et nous pensons que la prophétie en quelque sorte de Joseph de Maistre s'est réalisée et qu'un homme de génie a pu enfin réaliser cette merveilleuse synthèse de la science et de la foi. Il s'agit de Fernand Combette, dont nous allons, si vous le permettez, brièvement résumer une œuvre de plus de 16 000 pages.
Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de Combette, mais il faut d'abord que je conseille aux auditeurs de s'asseoir. Et s'ils ont une ceinture de sécurité sur leur fauteuil, il faut pas hésiter à la mettre. Parce que Combette, c'est un peu dur à avaler. Hein? On peut dire ça, non?
Ça dépend aussi, évidemment, les esprits, imbus des données modernes ont des difficultés à retrouver l'équilibre. Et je crois, il y a une prophétie, je ne sais plus qui, dans la Bible, qui dit un jour viendra où les gens croiront à des fables. Et nous pensons qu'une bonne partie des données de la science moderne officielle constitue des fables. Et il est clair que lorsque l'on redonne une vérité qui était partagée par les pères de l'Église, cela fait très, très drôle, ça fait bizarre. Et effectivement, vos auditeurs peuvent s'asseoir, mais après ils pourront se remettre debout et pour étudier. Et si vous le permettez, nous allons commencer par la... le premier travail qu'a effectué Fernand Crombette.
Ça, je voudrais prendre un petit... Pour parler de Fabre, parce que pour bien comprendre, je dirais, le système poétique de la science, parce que tout le monde est convaincu qu'en fait, la science ne dit que le vrai. Mais il suffit d'aller voir une conférence internationale sur le Big Bang, et puis voir l'assemblée de prix Nobel et de scientifiques payés par vos impôts, qui vous parlent du Big Bang, et on arrive à remonter à 10 puissance moins 37 secondes, c'est-à-dire... une seconde divisée par 10 avec 37 zéros par derrière. Et on nous explique ce qui s'est passé à cet moment infime.
Et là,
tout le monde, on est en plein délire. C'est l'activité poétique à l'état pur. C'est ce qu'expliquait Marcel Decorte dans l'avenir de l'intelligence en péril de mort. C'est une activité purement poétique. Elle
l'avenir
n'a plus
de l'intelligence,
aucun
c'est Maurras.
L'intelligence en péril de mort. C'est une activité purement poétique qui n'a plus aucun lien avec le réel. On a complètement coupé avec la conception aristotélicienne de la science pour tomber dans un idéalisme mathématique, un idéalisme de la quantité. Alors ces gens-là brodent, mais qu'est-ce qu'ils brodent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous offrent une vision du monde qui est une alternative à la vision réelle et sacrée de la vie. Et Crombette s'intègre dans cette vision sacrée et biblique pour remettre les choses à leur place. Et il ne le fait pas contre la science, il le fait avec la science, mais il remet la science à sa place, c'est-à-dire sous l'autorité de la foi. Et Jean-Charles va nous présenter la géographie sacrée de Crombette.
Oui, géographie divine. Alors, donc Fernand Crombette, qui est mort en 1970, à l'âge de 90 ans, qui était un homme de foi et un homme particulièrement brillant, est arrivé un petit peu incidemment. La Providence a voulu qu'il se mette à l'étude, alors qu'il ne cherche absolument pas à aucun moment à prouver la Bible. Sa fille, qui était étudiante aux Beaux-Arts, devait réaliser un tableau sur les saintes femmes au tombeau. Et voulant l'aider, il a pris la Bible, il l'a ouvert et tombé, la Providence a voulu, sur le verset 12 du psaume 72, « Et Dieu notre roi dès avant les siècles a opéré le salut au milieu de la terre ». Et il a été interpellé, comme l'on dit maintenant, par cette phrase, puisque Jérusalem n'est pas au centre du monde. Or, la Bible dit l'inverse. Il a été très étonné. Il s'est souvenu des travaux du géographe allemand Wegener sur la dérive des continents qui avait reconstitué le continent unique primitif que les géographes appellent la Pangée. On remarque ainsi que le Brésil s'intercale très bien dans l'Afrique. Toutefois, Fernand Crombette, toujours confiant dans la parole divine, c'est aussi souvenu qu'il y avait les eaux d'en dessous le firmament et les eaux au-dessus du firmament. Et rejoignons ainsi ce que pensait le philosophe Kant quand il parlait des eaux d'en haut. En quelque sorte, il y avait un anneau à queue analogue à celui autour de Saturne qui, lors du déluge, s'est effondré, provoquant ainsi le déluge. Il a donc cru aussi à l'existence du déluge qui est attesté très largement dans les Écritures, à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, le niveau des eaux des océans à l'heure actuelle n'est pas le niveau qui prévalait avant le déluge. Et il a constaté en regardant les cartes bathymétriques que les océans, le socle descend de manière régulière jusqu'à moins 2000 mètres, et après il s'effondre brusquement pour tomber dans les fonds abyssaux. Et il a donc eu le trait de génie, non pas de s'arrêter à la côte actuelle pour reconstituer le continent unique primitif, mais à la côte bathymétrique moins de 2000 mètres qui correspond, l'eau au-dessus correspond à la quantité d'eau qui s'est abattue lors du déluge. Et il reconstitue ainsi un continent unique primitif, en partant pour ne pas être influencé des îles Malouines ou Falklands, c'est comme vos auditeurs préfèrent. Et,
Malvinas, avec Internet, on est écouté en Argentine aussi, vous faites attention.
Bon. Et donc, la reconstitution unique, la reconstitution qui représente près de 1000 pages de travail de Fernand Crombette, donne quelque chose d'absolument prodigieux. C'est un continent unique à 8 pétales et dont le centre est Jérusalem, parfaitement centré sur Jérusalem, et l'on retrouve les quatre fleuves dont il est question dans la Bible, dans la Genèse, le Tigre, l'Euphrate, le Fison et le Géon. Ceci est absolument merveilleux. Et pour apporter un petit peu de l'eau au moulin de Fernand Combette, je crois que vous connaissez bien Monsieur Guiberteau, qui a
fait... reçu, oui, dans cette émission.
Vous l'avez déjà reçu.
Monsieur granulométrie.
Voilà, donc Monsieur Guiberteau, qui est un polytechnicien, qui est le vice-président de notre association, qui est un sédimentologue de renommée mondiale, a réussi à mettre en évidence que la stratification n'est pas liée à un problème de temps, mais c'est un problème de mécanique. Je le dis vraiment en deux mots. Et que en quelque sorte, il a fallu pour qu'il y ait stratification un apport d'eau considérable. Et si vous voulez, la grande conclusion, c'est que les strates telles qu'on les observe se sont formées lors du déluge. Et cela nous fait penser à une des confessions qu'a fait Mélanie de La Salette à son confesseur, le Père Combe, pas le petit Père Combe, mais le Père Combe, et qui le Père Combe lui objectait que la Terre avait des millions d'années, que les strates s'étaient formées progressivement. Elle a souri à ses propos. Elle a dit non, les strates se sont formées lors du déluge, comme il est écrit dans la Genèse. Donc il s'agit, le premier travail de Fernand Combette était achevé. Il s'agit de la géographie divine. Vous comprenez bien qu'il est extrêmement difficile de résumer une œuvre qui n'est pas une œuvre poétique, qui est une œuvre scientifique, à la fois extrêmement facile à lire, extrêmement plaisante, mais en même temps extrêmement pointue, extrêmement fouillé, et on en arrive à une chose tout à fait merveilleuse, c'est-à-dire reconstituer le continent unique primitif. Et il y a d'ailleurs des traces.
Alors une parenthèse, si vous permettez, quand vous dites extrêmement facile à lire, moi les seuls documents que j'ai eus, c'était des photocopies de documents manuscrits. Donc
on s'est amélioré, et maintenant tout est typographié.
Mais je crois que c'est important de comprendre Monsieur Combette en fait arrive avec les travaux de Monsieur Berthaud, d'ailleurs, qui poursuit, arrive à cette conception que les paysages géologiques que l'on voit ne sont pas le produit du temps, mais sont le produit d'une action mécanique qui peut se faire en quelques heures. Ça a été prouvé.
Oui, Guiberteau le démontre dans une cassette.
Le démontre d'une manière absolument éblouissante, que la géologie n'a rien à voir avec le temps. Et la base même de la théorie de l'évolution, c'est l'allongement de la durée. Il était impossible, puisque d'âge d'homme, on n'avait jamais vu les espèces évoluer, il fallait donner du temps au temps pour pouvoir se permettre de voir les espèces passer l'une dans l'autre. C'est-à-dire que l'expérience échappait à l'homme. On tombait dans l'activité poétique. Or, les travaux de M. Berthaud, les travaux de M. Combette mettent un terme à ses propos. Exactement.
Et si vous pouvez, là, évidemment, on est à la radio, on ne le voit pas. Il s'agit d'une enluminure qui représente le Christ
éclairant la Terre. L'univers, avec un compas, d'ailleurs.
Oui.
Et on voit bien. Alors, c'est vrai que c'est une icône, ça, mais de quelle époque?
13e siècle.
13e siècle. Et alors, c'est intéressant parce que c'est une icône. Donc, on voit le continent original.
Absolument.
Qui a 8 pétales, comme le.
Alors, qui est festonné, qui est semblable à une fleur,
qui indique, hein.
Et qui laisse entendre que Jérusalem était au centre. Saint-Hildegarde de Bingen, dans ses visions, a une vision de la Terre aussi identique, à peu de choses près, celle de Fernand Combette.
Jérusalem est au centre de la Terre, qui est au centre de l'univers, enfin de la galaxie, qui est au centre de l'univers. Et là, on a une vision christocentrique.
Absolument, vous comprenez que le monde n'est plus le même. Le monde.
Et on comprend bien. Enfin, c'est assez logique d'imaginer que Dieu crée l'univers pour accueillir, crée l'univers comme un écrin pour accueillir sa plus belle création.
Évidemment. Et vous comprenez que les conséquences sont énormes, parce que si la Terre n'est plus une vague bout de planète perdue aux confins de l'univers, dans lequel la vie serait apparue par hasard dans une flaque d'eau, c'est tout à fait différent.
Oui, et les conséquences, ça change quand même pas mal de choses.
Et les conséquences sont tout à fait différentes.
Alors ça, c'est un des travaux.
Il y a 16 000 pages, là il y en a que 1000 à peine. Un autre travail, là, je ne le reprends pas forcément dans l'ordre, ça a été de s'intéresser à Galilée. D'où le titre de l'ouvrage, Galilée avait-il tort
ou raison. Une des idées partagées par tous nos contemporains, c'est que Galilée a prouvé que la Terre était au centre et tournée autour du Soleil. Or, comme l'a dit M. Dilly tout à l'heure, Galilée était incapable d'apporter le moindre commencement de preuve à ce qu'il avançait, ainsi que Copernic. C'est d'ailleurs ce que remarque Arthur Koestler, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un fondamentaliste catholique, qui dans les somnambules...
Ou alors c'est nouveau, ça vient de sorte.
Qui dans les somnambules avait bien démonté le mythe Copernic. Et il a repris toute une somme de travaux, dont les expériences de Michelson et Morley, les deux premiers prix Nobel de physique américains, ainsi que les expériences de Michelson et Gale. On va rentrer dans les détails. Mais en fait, le sujet est loin d'être terminé. Et il n'y a pas de preuves formelles de la rotation, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais enfin, si quelqu'un est capable de les apporter, nous les étudions. Mais je crois qu'il y a suffisamment de personnes chez nous qualifiées, dont un docteur en astronomie. Et il n'y a pas de preuve formelle de la rotation de la Terre autour du Soleil.
Mais dans les premiers numéros du Libre Journal, on avait annoncé qu'on proposait un prix d'1 million de francs à qui arriverait à démontrer de façon indiscutable que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, pas le contraire. Et Dieu merci, personne ne m'a jamais rien présenté.
Un Américain comme vous a proposé en dollars une récompense à quiconque arriverait à lui donner une preuve définitive. Le sujet est en fait beaucoup plus complexe qu'il peut le paraître, et Fernand Crombette a eu à la fois le courage et l'intelligence de s'attaquer à ce sujet, qui a été un des points de départ, comme l'a souligné tout à l'heure M. Dilly, du divorce entre science et foi. Mais le sujet n'est pas clos, on continue à l'étudier, et là encore, de grands bouleversements peut-être un jour apparaîtront.
D'ailleurs, il est étonnant, cette semaine, dans Valeurs Actuelles, il y avait un article du docteur Debray concernant le statut des embryons et la possibilité de pouvoir se servir d'eux pour faire des expérimentations, et la conclusion était Galilée.
La conclusion était Galilée a bien...
Parce que Galilée était arrivé, avait été maltraité au nom de la science et de la vérité, devait utiliser les embryons pour pouvoir faire des expériences.
Ce genre d'argument-là, on commence à le connaître un peu par cœur.
Oui, on le connaît,
ça permet ça pas mal d'autres choses. Par exemple, quand ça justifie le bombardement des camps palestiniens, c'est exactement le même système. C'est-à-dire, sous prétexte que nous, on a été mis dans des camps et massacrés, on a le droit, nous, de massacrer les gens qui sont dans des camps. Évidemment, c'est une façon de voir les choses qui est un petit peu particulière, mais je la partage pas. Pour
mais là, alors, ce qu'il faut conclure sur ce sujet, c'est que l'affaire Galilée n'est pas close,
voilà, exactement.
Et qu'il y a des scientifiques tout à fait sérieux, s'il ne s'agit pas de délire, qui reprenant des expériences récentes laissent entendre que les affaires peuvent encore progresser.
Les affaires reprennent.
Voilà, exactement.
Le sujet le plus important qu'a traité Fernand Crombette,
c'est celui de l'égyptologie. Car Fernand Crombette s'est intéressé à l'égyptologie parce que évidemment il avait compris tout l'intérêt de revenir à la lettre de la Bible, et comme il était curieux, s'est intéressé au problème de l'Égypte. Paradoxalement, rien ne concordait. Aucune date ne concordait, Moïse n'avait jamais été en Égypte, Joseph n'avait jamais existé. Donc il y avait là un gros problème, et donc il s'est penché sur l'Égypte avec une acuité et un courage phénoménal. Ça lui a consacré une quinzaine d'années de sa vie, où il a écrit 15 volumes, un atlas, un dictionnaire.
9000 pages.
Il faisait le trajet.
Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie en dehors de ça?
Eh ben, il a eu... Il
travaillait 14 heures par
jour. Il a eu une veine terrible. Il a été mis à la retraite très tôt, parce qu'il avait découvert, comme quoi les affaires sont des affaires, et rien de nouveau sous le soleil, il avait découvert un scandale financier qui alimentait le Parti Socialiste à l'époque du Front Populaire.
Non, on ne peut pas croire une chose pareille.
Et comme il refusait de monter en grade en contrepartie de taire ce qui lui est arrivé, on l'a fait un décret et on l'a foutu à la retraite. Il s'est retrouvé en 1937 à la retraite, il avait 40 ans.
Si on avait foutu la retraite chaque fois que j'ai révélé un scandale, je serais quand même...
Il avait déjà préparé ses travaux depuis presque une dizaine d'années, et ça lui a donné le temps pour consacrer à cette œuvre gigantesque.
Non, en même temps, c'est un génie, parce qu'à l'évidence, pour faire tout ce qu'il a fait, un dictionnaire hiéroglyphe égyptien copte, un dictionnaire latin copte latin, j'en passe, on peut
mais
pas...
Mais sérieux?
Ah, tout à fait, oui.
Absolument. Dans le dictionnaire, il est sérieux, il est vérifié par...
Il a été étudié par des égyptologues.
Oui, absolument.
Mais d'ailleurs, Crombet reprend en fait des intuitions des égyptologues, en particulier celui Champollion, parce qu'en fait, c'est pas Crombet qui a inventé la théorie selon laquelle on peut comprendre les hiéroglyphes par le copte. C'est Champollion le premier qui a eu cette intuition-là. Il a même été beaucoup plus loin, parce que il a même envoyé une lettre au pape de l'époque, dont je me souviens plus le nom exactement, et dans lequel il lui demandait d'étudier le fait que le copte était peut-être la langue dont se servaient les Hébreux au sortir de l'Égypte. Bon, c'est resté lettre morte, mais Crombet l'a repris. Donc il s'est attaché à l'Égypte, il a tout retraduit, les cartouches des noms des rois d'Égypte. Il a refait toute la généalogie et il s'est aperçu un phénomène très simple en revenant encore une nouvelle fois à la Bible. Donc la Bible est constamment la référence sur laquelle il va s'attacher pour trouver les chaussures et lui permettre d'avancer dans sa recherche scientifique. Il a lu les tables généalogiques de la Bible et il a vu que Cam avait eu un fils qui s'appelait Mishraïm, qui était le frère de Canaan, et que Mishraïm avait eu 6 fils.
Mishraïm, c'est l'Égypte.
C'est l'Égypte.
C'est comme ça que les Arabes appellent l'Égypte Misr.
Bon. Et que ces 6 fils avaient été les 6 fondateurs des royaumes d'Égypte. Et donc, contrairement à ce que les égyptologues classiques, dirons-nous, considèrent, c'est-à-dire que les successions des dynasties, enfin, ce qu'on appelle l'époque prédynastique, est une succession de royautés, ça n'est pas du tout le cas. C'est simultané. Et donc, en fait, on raccourcit considérablement l'histoire égyptienne et on arrive à la réintégrer dans...
Parfaitement
dans l'histoire biblique.
Alors, je crois qu'on ne va pas pouvoir refaire réciter l'œuvre de Crombet ce soir, bien sûr. Et vous la publiez, vous, alors?
Alors, absolument. Le Séché la publie. Je vais peut-être donner des coordonnées.
Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, la première version manuscrite, c'était quand même un peu.
C'est un petit peu difficile, mais on a bien amélioré les choses. Donc, si vous voulez, je vais donner deux coordonnées. Nous avons bien sûr un site internet. Alors, si les personnes souhaitent se connecter, je vais tout d'abord laisser simplement l'adresse email où ils pourront nous demander des renseignements et nous nous engageons à leur répondre immédiatement. L'adresse c'est séché, C-E-S-H-E, @chez.com, C-H-E-Z.com. Je répète, séché, C-E-S-H-E, @chez.com, C-H-E-Z.com.
Et pour les hommes préhistoriques qui n'ont pas d'internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils se brossent?
Non, ils peuvent toujours prendre une belle plume et nous écrire à Séché France.
Donc, ils ne sont pas obligés de prendre une calame, on peut prendre une plume.
On peut prendre une plume. Donc Séché France, C-E-S-H-E, boîte postale 51, 59 731, Saint-Amand, CEDEX. Je répète, Séché, boîte postale 51, 59, 731, Saint-Amand, CEDEX. Alors donc, évidemment, on peut acheter tous les ouvrages, demander de la documentation et consulter notre site internet.
Et on peut s'abonner à la revue Science.
Je voudrais quand même signaler que, contrairement à ce que dit M. De Becketch, c'est quand même pas inabordable. Je suis pas un grand scientifique.
Non.
J'ai une petite formation. Il suffit d'un petit peu de patience et on y rentre parfaitement.
Ah non, c'est pas
et ça.
Ça
se lit comme un roman
bien
policier.
C'est pas
la difficulté parce que non, c'est pas typographié.
La difficulté de lire les caractères. C'était pas agréable.
Mais le problème, est en partie résolu.
Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait s'asseoir pour lire l'œuvre de Crombet tellement elle était surprenante. Mais savez-vous que la plupart des égyptologues, je dis bien la plupart, nient la présence des Hébreux en Égypte. Or, les Hébreux, quand vous lisez la Bible, ont été en lien avec l'Égypte de très nombreuses fois et sont restés même 430 ans. Et cela est nié par la plupart des égyptologues. Et il y aurait de quoi, en tant que croyant, rester assis.
Étant donné ce qui se passe en Palestine, où les Juifs ont vécu dans le temps, alors ils se disent, si on recommence avec l'Égypte, on va avoir... Bon, laissons tomber. Jamais ils n'ont été en Égypte, comme ça on est tranquille. C'est la raison qui commande, là,
je pense qu'on a voulu... parce qu'on ne faisant plus confiance.
Mais c'est ce qu'on appelait les icos, non?
Les ixos. Bon, ça nous amènera encore.
On peut pas nous inviter, M. De Becketch. Il faut qu'on parle des ixos.
Ils sont nés sous ixos. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est passionnant. Moi, vraiment, c'est des choses qui me... Vous n'êtes pas fâché avec les gens du CEP?
On n'est pas fâché.
Vous évoluez dans des directions un peu différentes.
C'est-à-dire que nous avons pris comme chemin non seulement déjà de rester fidèles au statut du séché, mais en plus nous travaillons à la fois à la défense de l'inhérence biblique avec tous les apports qu'il peut y avoir de différents scientifiques. Nous avons invité d'ailleurs à notre dernier colloque Monsieur Angelo Palego qui est venu vous avez reçu ici pour nous parler de la découverte de l'Arche de Noé. Nous avons reçu Monsieur David Roll il y a 2 ans qui est un égyptologue de renommée mondiale qui lui croit à la Bible, c'est un des seuls pour ainsi dire. Nous sommes à la fois ouverts mais toujours centrés sur l'œuvre de Fernand Combette qui a réalisé une synthèse absolument prodigieuse qui est absolument stupéfiante et qui sert de base de travail sans rester bien entendu tout en restant ouvert à tous les apports que peuvent nous donner.
L'idée de ce petit bonhomme qui travaillait dans son coin avec sa fille, je crois,
sa fille l'aidait, oui.
Qui l'aidait, et qui a fait ce travail, cette œuvre incroyable, 16 000 pages, vous le
dites. 16 000 pages de Zatlas.
Alors là, romantique, au-delà de l'exprimable, c'est splendide. On imagine les heures qu'il a dû passer sous la lampe à travailler, à faire, en se disant, en plus, ce que je fais, ça m'étonnerait quand même que ça fasse les mêmes ventes qu'Harry Potter. Et ben, il a fait.
Il a toujours cherché l'anonymat d'ailleurs, ouais. Et a réussi à faire des choses prodigieuses.
Voilà. Si vous m'en croyez, chers auditeurs, vous vous intéresserez aux travaux du Séché et vous abonnerez à Science et Foi, qui est une revue passionnante, complètement déjantée, qui parle de choses qui n'ont rien à voir, mais c'est vraiment très 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 intelligent. Il y a des cassettes aussi, notamment, je crois que vous avez une cassette.
On vend des cassettes vidéo, évolution science ou croyance.
Voilà. Et puis des cassettes audio aussi.
On vend des cassettes audio, des colloques, on vend des cassettes vidéo, on vend tous les livres, et de toute façon, pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir une documentation gratuite, la recevront, il suffit de reprendre contact avec nous à l'adresse que nous avons indiquée.
Voilà, on rappelle cette adresse, Séché France, boîte postale 51, 59 731 Saint-Amand-Sedex. Saint-Amand, c'est Jojo, ça. Tu te rappelles, Guy, de Jojo de Saint-Amand?
Oui.
La vedette d'Interville. Tout ça ne nous rajeunit pas. Boîte postale 51 à Saint-Amand. Merci beaucoup,
tous les deux, d'être
venus nous parler du Séché et de Combette. Et ça
il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire.
Oh, bah évidemment, mais alors, si vous dites tout à la radio, après, plus personne ne s'intéressera à votre revue. Ça sera dommage.
Merci beaucoup.
Non, mais on en reparlera de toute façon parce que c'est un sujet inépuisable.
Merci beaucoup, monsieur.
À bientôt. Voilà. Quelques derniers messages, Victoria.
Il est désolant de voir Radio Courtoisie diffuser de telles contre-vérités scientifiques, lesquelles, au lieu de défendre le christianisme, donnent à ses adversaires l'occasion de le ridiculiser. Ça vient d'un ancien professeur d'université, professeur bénévole de religion dans un grand lycée catholique.
Eh ben, je bats ma coupe, voyez-vous. Je fais mon mea culpa. Je n'aurais pas dû, mais moi j'y crois alors, parce que j'ai une émission, j'en profite pour dire ce que je crois.
Et je voyais Victoria qui était très intéressée par Sissi.
Alors, j'aimerais savoir c'est fait d'après le film. J'aimerais savoir ce que Serge Le Becquetch pense de l'éviction de Bernard Lugan de la vente des livres du Figaro à l'Hôtel de Ville.
Vous savez que Delanoé a dit qu'il ne voulait pas de Lugan parce que Lugan était un extrême droite. Et vous savez comment on appelle les gens d'extrême droite à gauche, on les appelle les rats noirs. Donc j'ai remarqué, c'était vraiment la première fois qu'une tapette avait peur d'un rat.
Oh!
Oh, Serge.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Tout de suite, mais tout à l'heure. Oh, Serge, dit votre ami Leroux. On dit un calame et non pas une calame.
Alors, ce qui est très étrange, c'est que mon ami Leroux a rejoint la demeure du père il y a 4 ou 5 ans. Et je pensais à lui tout à l'heure quand on avait Monsieur Adjo, parce que Jean-Marc était un archer de très très grande valeur. Il avait même été entraîneur de l'équipe olympique de tir à l'arc du Royaume d'Arabie Saoudite. Alors je sais pas par quel miracle il a pu téléphoner à la radio, mais en tout cas je salue celui qui lui a servi de truchement, et ça me fait très plaisir de pouvoir en parler.
Toujours à propos de l'arc, ces poètes sont des archers aveugles. Ça corrobore ce que dit votre invité. Il y a beaucoup d'associations d'archers en Picardie. Benjamin Guillemin en a parlé récemment dans une de ses émissions. Rappelons la procession au flambeau,
le samedi 8 décembre à 19h45 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay pour la fête de l'Immaculée Conception.
Et puis c'est Santa Lucia, Sainte-Lucie, la fête de lumière aussi.
Quelles sont les références de la musique que vous avez passées à la coupure technique? Alors, celtique, volume 2, référence DOM 1437.
Et puis c'est pas de la musique celtique en toc.
Quel jour le cœur montjoie dédicacera ses cassettes à la mère JT, chez la mère JT, le samedi 15 décembre de 15h à 19h.
Ah, attendez, à propos, dimanche après-midi, chez l'Alsaco.
Oui.
Il y a la fête traditionnelle de Saint-Nicolas qui a été déplacée puisqu'il faut que ça tombe le dimanche, donc c'est à peu près à partir de, je crois que c'est à partir de 15h, quelque chose comme ça. Il y a des pains d'épices, il y a des chocolats chauds pour les enfants, et enfin, c'est toujours très 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 sympathique. Donc si vous êtes à Paris, allez chez l'Alsaco, 10 rue Condorcet, 75 010, Paris.
Science et foi, voilà l'adresse, voici l'adresse. CESHE, France, boîte postale 51, je pense, 59731, Saint-Amand-Cédex.
C'est consternant.
Il n'y a pas de téléphone, mais s'il y a un téléphone, toujours pour Science et Foi, 0327-48-0100. 0327-48-0100. Et puis, le nom de l'auteur et les références du livre sur le tir à l'arc.
Georges Adjo. H-A-D-J-O-P-O-U-L-O-S, Adjopoulos, édition Dervy. Ça s'appelle Symbolisme, Chevalerie et Symbolisme du tir à l'arc.
Et puis, c'est celui-là sur le conte de Noël?
Ah non, le conte de Noël, c'est
Michaelo.
Michaelo, le plus petit des anges de Dieu, qui est une pure merveille. Édition du Triomphe de Joël Dabadi.
C'est tout. C'est tout.
Eh bien, merci de votre patience. À la semaine prochaine, je crois. Que Dieu nous garde.
Merci Serge.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 décembre de 18 à 21h, en différé jeudi 6, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.